bonsoir à tous. Nous sommes le 4 juin 2019 et aujourd'hui nous recevons Albert Mokaiber.
Bonsoir.
Est-ce que je prononce bien ?
Oui. La bonne prononciation est trop compliquée.
D'accord. Mokaiber, non ?
Mokaiber.
Mokaiber.
Mokaiber. Il n'y a même pas de mot. C'est...
Bon, d'accord.
C'est pas grave. Albert Mokaiber, ça rime, c'est plus simple.
Mokaiber, ouais, d'accord, parfait, effectivement. Donc je vous reçois, vous êtes psychologue clinicien.
Oui.
Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours
».
Et vous êtes peut-être beaucoup encore plus connu sur les réseaux sociaux et sur Internet avec cette petite vidéo qu'on a vu beaucoup circuler sur vous. Avec vous.
J'enlève la bague, elle revient. J'enlève la bague, elle revient. Votre cerveau peut vous jouer des tours et c'est important de comprendre comment ça marche. Notre cerveau a besoin d'anticiper en permanence parce que le monde est complexe, notre attention est très limitée et on a besoin de faire beaucoup de fois des choix rapides. Il ne faut pas oublier que notre espèce n'a pas vraiment de défense, on ne va pas très vite, on ne peut pas voler, on a vécu pendant longtemps dans un milieu très hostile. On a dû faire des suppositions pour pouvoir survivre. Je ne peux pas attendre de voir qu'il y a un lion pour commencer à courir parce que je serai mort. Et donc ces suppositions sont nécessaires pour notre survie. Je suis en train de prendre en otage un peu ces suppositions que votre cerveau est constamment en train de faire sur le monde. Donc votre cerveau se dit, la bague est enlevée, elle est maintenant dans cette main, elle n'est pas supposée re-rentrer comme ça. Et en fait, ce que je suis vraiment en train de faire, c'est que je ne prends jamais la bague. La bague, elle reste tout le temps dans ce doigt, mais je suis de mon regard cette main, votre cerveau le suit aussi, et parce que vous avez déjà vu des personnes enlever et mettre des bagues, vous dites que la bague est dans cette main, et quand je fais ce geste, votre cerveau est pris à contre-pied et dans le cas des tours de magie, ça vous fait une surprise cool. Ces suppositions que notre cerveau fait peuvent être très utiles. Si par exemple, moi je connais très bien la personne avec qui je suis en couple, qu'est-ce que ça veut dire? Je la connais très bien. C'est-à-dire mes suppositions sur elle matchent bien avec qui elle est vraiment. Et donc je peux lui préparer par exemple une surprise qui va lui rendre plaisir. Je peux savoir qu'est-ce qu'elle aime bien, lui préparer à dîner. Inversement, des fois ça peut être une source de conflit. Si moi par exemple j'ai une équipe au boulot et je fais des suppositions sur ce que mon équipe devrait faire, mais je connais pas très bien mon équipe, ou bien j'ai des attentes irréalistes par rapport à mon équipe, quand mon équipe ne fait pas ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse, je suis pris de court et je vais peut-être aller leur dire qu'ils font pas bien leur boulot, etc. Alors que c'est pas nécessairement eux qui font pas bien leur boulot, mais c'est des fois c'est un décalage entre ce que moi j'attends d'eux et ce que eux ils attendent de leur boulot. Et donc ces décalages entre les attentes des uns et des autres peuvent être une source de cohésion sociale ou une source de divergence sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi je suis en train de faire des suppositions, mais toutes les autres personnes sont en train de faire des suppositions. Les heuristiques, c'est quoi? C'est une manière approximative de résoudre un problème. Quand je marche dans la rue, mon cerveau ne calcule pas la force exacte qu'il a besoin pour lever le pied et le remettre, lever le pied et le remettre. Sinon, on ne pourrait pas vraiment fonctionner. Le prix, c'est que des fois, on peut trébucher. Le problème, c'est qu'on utilise aussi ces heuristiques pour former nos opinions. On a tendance à croire que nos opinions sont précises. Mais même nos opinions, c'est très approximatif. Je suis bombardé par des tonnes d'informations sur des sujets très pointus. L'écologie, la politique, la géopolitique internationale que je ne maîtrise pas très bien. Ce qui m'empêche pas d'avoir des opinions. Ces opinions sont approximatives et des fois les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que trébucher ou me prendre le coin de la table quand je suis chez moi.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, ma première proposition d'article était à Sciences Humaines sur un article qui était... que j'avais titré le comment du pourquoi plutôt que le pourquoi du comment qui est l'expression traditionnelle, et ça partait en fait d'une étude psychosociale sur des gens qui, quand on leur demandait pourquoi ils pensaient comme ça, ça avait tendance à leur faire augmenter leur adhésion à leur camp politique, et quand on leur demandait comment il fonctionnait avec ses idées politiques, ça leur faisait baisser en fait, parce que du coup ils étaient confrontés à une sorte de méconnaissance profonde. Et c'est un peu ce dont vous parlez. C'est pour ça que j'ai voulu aussi commencer par cette vidéo, parce qu'elle rentre bien dans le sujet. C'est-à-dire que nous avons tout un ensemble de préconceptions du monde, peut-être.
On a un ensemble de préconceptions du monde, pas seulement ça. Souvent, on ne sait même pas d'où ils viennent. Mais on s'en sent propriétaire. Et ce n'est pas seulement sur le monde, mes opinions politiques, mais c'est aussi sur moi-même. Par exemple, l'exemple que j'aime bien donner, c'est imagine quelqu'un qui est jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On ne le choisit pas. On le devient. Mais une fois qu'on l'est, ça fait partie de ma construction, je m'en sens propriétaire. Donc si j'appelle ma copine et elle ne répond pas, mon cerveau fait la supposition, parce que qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? C'est une grille de lecture de la réalité. Mon cerveau fait cette grille de lecture, elle me trompe. Et après, j'agis comme si c'est une vérité. Alors que j'ai aucune idée du pourquoi, du comment, ou du comment, du pourquoi, je suis devenu jaloux. Mais j'agis comme si je l'ai choisi, j'ai raison, et je vais clasher ma copine, et on va se disputer. Alors que, encore une fois, ça vient... Je ne l'ai jamais choisi. Et c'est la même chose pour beaucoup d'idéologies. Ce n'est pas par hasard qu'on ne trouve pas certaines religions dans des endroits où il n'y a personne de cette religion. Mmh. Parce que la religion, si on ne l'apprend pas quand on est tout petit, c'est assez compliqué d'y adhérer.
D'accord. Mais alors, tout ça, c'est quand même mêlé de pas mal d'émotions. Est-ce que c'est possible d'être aussi rationnel? Parce que là, une fois que c'est expliqué, on est rassuré, mais... dans un quart d'heure ou dans une demi-heure ou ce soir ou demain, je vais être confronté à nouveau par cette réflexion qui va m'être imposée contre mon gré presque.
Oui, on peut pas y échapper, c'est pas très très grave, j'ai envie de dire. On n'est pas équipé pour aller remonter pourquoi du comment et le comment du pourquoi de tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est savoir quels sont les points importants, charnières de mon interaction avec les autres et peut-être être un peu plus vigilant sur celle-ci. C'est-à-dire, si moi, je sais pas, j'aime pas la mayonnaise, je vais pas me dire je suis pas propriétaire, j'ai jamais choisi, je vais faire un travail de raisonnement critique et de doute de soi pour aimer la mayonnaise. Genre, limite, on s'en fout, j'aime pas la mayonnaise. Mais si moi, je suis homophobe, ça serait bien que j'essaye de réfléchir sur ce sujet. Est-ce que je l'ai choisi parce que mes conséquences peuvent avoir des effets sur les autres, ou si je suis raciste, ou même pour des choses positives. Si je suis écolo, si je vais aller faire des manifs pour le droit des immigrés.
Mais alors du coup, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas que notre cerveau qui nous dirige, il y a aussi la manière dont on le fait interagir avec les autres?
Oui, bien sûr, on est des animaux sociaux. Et du coup, on se construit souvent à travers les autres. Si moi, imagine que moi j'habite sur une île déserte et je suis seul et je crois que Dieu c'est un cocotier et que j'ai le droit de, je sais pas, coucher nu, dormir nu sur mon île, on s'en fout. C'est quand je vais me confronter à l'autre, que la construction, les histoires que l'autre se raconte sur le monde sont confrontées aux miennes, que ça commence à ce travail de confrontation avec soi-même devient intéressant. C'est la cognition sociale est à la base de ce qui nous rend humains. D'accord. Réfléchir sans l'autre. Si je suis psychotique sur une île déserte, je dérange personne.
Mais alors du coup, c'est ce rapport-là qu'on a avec les autres, c'est un peu ce qu'on appelle la culture, non? C'est ça?
Alors la culture, c'est le contexte dans lequel je baigne et qui m'impacte. Que ce soit mes goûts alimentaires, mes goûts vestimentaires, mes goûts musicaux, ma croyance religieuse, ma croyance politique, tout l'environnement dans lequel je baigne, et la culture. Ça peut devenir ma culture si je me l'approprie. Des fois, je peux être en acculturation, des fois, je peux être en déculturation, je ne me reconnais plus dans ma culture. Mais il y a quand même ce positionnement du contexte dans lequel je baigne.
D'accord. Est-ce qu'on est obligé de se positionner dans un contexte?
Oui. Pour une raison très simple, c'est que là, on est assis dans un studio avec un environnement, une température, des couleurs, etc. Ils sont en train de nous impacter. Il y a une étude, par exemple, qui a été faite sur le contexte pour montrer quand est-ce que les gens s'arrêtent pour aider quelqu'un qui est à terre, une victime. Ils ont voulu voir, est-ce que c'est le trait de personnalité, en gros, est-ce que les personnes plus croyantes, moins altruistes, plus de compassion, moins de compassion. Ils ont découvert que les facteurs 1 et 2 qui prédisent ça n'ont rien à voir avec la personne. Le premier facteur, c'est est-ce qu'on est pressé? Si on est pressé, on ne s'arrête pas. Et le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il pleut? S'il pleut, les gens ont moins tendance à s'arrêter indépendamment de leur trait de personnalité, de leur religion, de leur côté politique. Mais si moi je suis assis dans un café et quelqu'un tombe à terre et je vois un passant qui passe et qui s'arrête pas, je me dis c'est un salaud. Je me dis pas il est en retard.
D'accord.
Mais elle, la personne, parce qu'elle a accès à son monde intérieur, elle se dit merde, j'aurais peut-être elle va se dire j'aurais vraiment voulu m'arrêter, mais mon enfant est malade et il faut que j'arrive à la maison pour le soigner. Et ça devient un tout autre scénario. Et donc le contexte environnant, il y a un mot en anglais que j'adore qui est « hungry mm-hmm. ». C'est un porte-manteau de « hungry » et « angry ». En colère et j'ai faim. Oui, parce que des fois, on est en colère parce qu'on a faim. Je me prends la tête avec toi parce que, par exemple, imagine, dans le studio, il fait froid. Mm-hmm. Mais jamais on va se dire on est en train d'être très en clash parce qu'il fait froid. On va attribuer ça à des fêtes de l'homme. On oublie souvent le contexte alors qu'il conditionne énormément de choses D'accord. dans notre fonctionnement. Dans les pays nordiques, il y a même une maladie qui s'appelle SAD, Seasonal Affective Disorder. Mmh. C'est la dépression due au manque de lumière.
D'accord.
Mais donc ça, non, je ne peux pas décider que je vais m'en foutre de la lumière du soleil.
D'accord. Mais c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans le livre que j'ai commencé à lire, c'est que ça confirme l'importance de savoir toujours prendre un pas de côté par rapport à ce qu'on croit être une évidence.
Oui. C'est le mot évident, c'est marrant parce que là je suis en train de lire un livre qui s'appelle A Matter of Fact, c'est en anglais, sur l'émergence du mot fait, fact, en Europe. Et j'ai découvert que ce mot est très récent. La notion de fait, la notion de vérité, est une notion très récente.
D'accord.
Je sais que c'est bizarre, c'est genre 1617 ou 1650, un truc comme ça. Avant ça, il n'y avait pas cette notion de je détiens la vérité.
Tout était relatif.
Ou bien c'est les autorités religieuses ou politiques qui décidaient de ce qui est vrai.
D'accord.
Indépendamment des faits, vu qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un truc qui s'appelait le fait.
D'accord, ok. Donc, mais le fait scientifique, par exemple, les musulmans avec l'astrologie, etc.
C'était qui donnait les faits? Les autorités religieuses.
Ah bon,
c'est eux qui recrutaient d'accord. les chercheurs, même s'ils avaient raison ou pas. Mm-hmm. Mais si, par exemple, Galilée.
Oui.
Beaucoup de personnes croient que Galilée a été mis en prison puis tué parce qu'il disait que la Terre est ronde. Hypatia, dans la Grèce antique, avait déjà dit que la Terre était ronde. Galilée, son grand problème pour la société de l'époque, c'est pas qu'il a dit que la Terre est ronde, c'est qu'une personne qui n'est pas issue des autorités religieuses s'est octroyé le droit d'informer les gens sur une connaissance sur le monde. Et ça, c'est ça qui était inacceptable. C'est le fait que Galilée ait décidé d'informer alors que lui, il ne fait pas partie de l'autorité religieuse.
D'accord. Mais alors, tout ça, en fait, donc c'est le contexte et l'autorité. Est-ce que le contexte fait forcément autorité ou est-ce que c'est les individus qui sont dans... Parce que là, il y a...
C'est des interactions.
C'est des interactions. Mmh. Parce que dans le monde professionnel, l'autorité est un peu de fait une personne qui est placée hiérarchiquement au-dessus de soi, mais qui n'a pas forcément une autorité humaine, qui a juste une autorité un peu administrative.
Oui.
Et qui, du coup, peut utiliser ces rapports-là, justement, pour quelquefois humilier, quelquefois mettre la pression sur des gens. Mmh. Et un des moments dans lequel je vous ai rencontré, c'est une petite conférence que vous organisez avec votre association, si ouais. je ne me trompe pas, ce qui s'appelle ouais. Chiasma.
Exactement.
Et qui a pour but un peu d'explorer cette flexibilité cognitive, c'est comme ça?
Flexibilité mentale.
Flexibilité, voilà.
C'est la même chose.
Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans ce travail-là, c'est que vous donner les outils pour comprendre comment nous on réagit par rapport aux arguments des autres et quelquefois comment ces arguments, quand ils sont mauvais, ça ne nous empêche pas de les accepter néanmoins.
Oui,
quoi.
Clairement. C'est parce que on met beaucoup de soi quand on traite l'information du monde. C'est-à-dire on n'est pas des tabula rasa, on n'est pas des pages blanches. On a des a priori, on a une culture, on a des histoires qu'on se raconte. Et du coup, quand on est face à un argument, selon comment cet argument interagit avec mon référentiel interne, il peut être plus ou moins perméable à ce qu'il soit intégré dans mon modèle. Par exemple, si moi je suis altermondialiste anti-OGM, et quelqu'un me présente une étude hyper bétonnée, comme quoi les OGM c'est vraiment pas mauvais, je vais chercher la petite bête jusqu'à ce que je puisse trouver, si je peux, un problème avec cette étude pour ne pas intégrer l'argument. Par contre, si quelqu'un me montre une étude hyper pourri qui dit voilà, quelqu'un a mangé des OGM et après il en est mort, je vais pas faire ce travail de vérification. Je vais la partager. Parce que on interagit en permanence entre où est-ce que je suis sur un certain sujet et où est-ce que l'information que je reçois va m'emmener. Pour certains sujets, si je viens et je te dis, tu sais, je sais pas, au Vietnam, ils font un truc, et toi, tu t'en fous un peu du Vietnam, tu me dis, ok. Mais si toi, tu as une longue histoire avec le Vietnam, et c'est un sujet hyper sensible pour toi, et je te présente cette information, donc tu as ce qu'on appelle un raisonnement motivé. Ce que j'essaie de dire, pour utiliser une métaphore, après je reviendrai à mon exemple, c'est en gros, on peut penser de deux manières. Soit je peux réfléchir comme un détective, je suis l'épreuve et j'arrive à une conclusion, ça c'est un raisonnement non motivé, soit je réfléchis comme un avocat. J'ai ma conclusion, j'ai mon client que je veux défendre, et je vais réorganiser la réalité pour arriver à la conclusion que je veux déjà. C'est ça le raisonnement motivé. Et donc si moi j'ai un raisonnement motivé, je fais face à quelqu'un qui me donne des arguments qui sont bons, mais qui vont contre mon raisonnement motivé, je les refuse. Et s'il me donne des arguments qui sont pourris, mais qui vont dans le sens de mon raisonnement motivé, je les accepte. Et ça, c'est pas, encore une fois, c'est, on fait ça pour nos enfants, pour le boulot, pour la politique, pour tout. C'est pas un truc, parce que souvent quand on parle des biais cognitifs et de tout ça, on parle des vaccins, du réchauffement climatique, des platistes, la Terre est plate. Mais ça se passe dans votre couple, ça se passe dans vos relations avec vos collègues, avec vos enfants, c'est en permanence. C'est ça qui fait qu'on puisse interagir les uns avec les autres. C'est notre capacité à donner du sens à un monde qui foncièrement n'en a pas un.
Alors, ça soulève plein de sujets hyper passionnants, tout ça. Alors, par exemple, le premier truc, c'est que d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas vraiment le premier à le dire. Il y a Schopenhauer avant, notamment, parmi les plus connus. L'art d'avoir toujours raison, et dans son intro, c'est ce qu'il décrit. Il décrit que l'important, il n'y a pas de vérité, en fait. C'est juste qui a le rapport de force dans la conversation. Qui finit par avoir le dessus sur l'autre dans la conversation.
Il y a une vérité, mais la vérité n'est pas importante dans l'exercice de persuasion. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais, parce qu'il ne faut pas tomber dans la fausse équivalence que tout se vaut. Il y a, je ne sais pas, la Terre n'est pas plate. L'eau boue à 100 degrés. C'est des faits. Mais la vérité n'est pas une condition suffisante pour être dans la persuasion. Et du coup, Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, c'est un peu l'anti ce que moi j'essaye de faire. Lui, il essaye d'expliquer ses procédés pour avoir raison. Moi, c'est plus dans une sorte de défense de soi-même pour réaliser qu'on a tort.
D'accord.
C'est l'art de réaliser qu'on a tort plutôt que l'art d'avoir raison. Peut-être j'aurais dû appeler mon livre ça.
J'y ai pas pensé. Le titre est très bien. Hein. Votre cerveau joue des tours.
L'art de réaliser qu'on a tort. Après, je pense que c'est pas vendeur l'art de réaliser qu'on a tort.
Non, c'est peut-être un peu négatif.
Ouais,
du coup,
C'est pour ça que Schopenhauer a eu la bonne idée, l'art d'avoir toujours raison.
Mais alors, du coup, et puis quand vous parlez à l'instant de raisonnement motivé, où vous faites la comparaison entre le travail d'un détective et le travail d'un avocat, j'ai un peu l'impression de voir quelquefois le travail de certains journalistes qui partent de ce qu'ils veulent dire et qui essayent de trouver des gens qui vont corroborer. Et ça, c'est un des grands risques des micro-trottoirs, par exemple, puisqu'on va choisir les avis en fonction du discours qu'on veut tenir. Et c'est très compliqué pour le monde capitaliste quand on ne sait pas exactement vers quoi on va arriver. Donc le travail du détective est extrêmement stressant parce que on ne sait pas dans quel cadre, et on ne sait pas quel est le résultat final, et du coup, c'est très très insécurisant pour les financiers, pour ceux qui décident à la fin, et donc ils vont choisir plutôt d'aller vers écris-moi ton scénario, ton synopsis, et si je suis d'accord avec ton synopsis, tu peux aller filmer et poser les questions que je t'ai demandé de poser, et pour arriver avec l'histoire que moi j'ai décidé. Du coup, ce positionnement un peu autoritaire et politique d'une vision du monde, quoi.
Bien sûr, mais encore une fois, les journalistes le font parce qu'ils sont des humains. Mais on le fait tous, sur plein de sujets. C'est juste qu'on le réalise pas. Et c'est sûr que ça a l'avantage, tu sais déjà où tu vas arriver. Et du coup, c'est beaucoup moins inquiétant que le travail de penser. Par exemple, quand on fait de la science, on fait une hypothèse et on ne sait pas si on va la valider ou pas. Et la majorité du temps, on la valide pas. C'est pour ça qu'on s'appelle des chercheurs, pas des trouveurs. Si on avait des raisonnements motivés, on serait toute la journée en train de trouver. Et la majorité du temps, le réel vient infirmer ce qu'on croyait, et donc on se retrouve à avoir tort. Mais aussi, ce qui se loge dans ce sujet, c'est le fait de croire qu'on a tout le temps la capacité d'accéder au vrai. Alors que c'est pas vrai. Et pour moi, on a besoin, dans cette époque d'hyper-information, d'hyper-capitalisme, etc., de réhabiliter l'incertitude. De dire sur ce sujet,
Je ne sais pas.
Oui, mais c'est pas ça qui crée du stress, justement, l'incertitude, le doute.
Alors, le doute peut créer du stress et peut rassurer. Si tu as confiance en toi, tu peux douter de toi, paradoxalement, parce que tu n'as pas peur d'avoir l'air bête, d'avoir l'air faible. Mmh. Si tu es... Tu n'as pas très confiance en toi, tu as très peur de montrer quoi que ce soit. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie pendant 10 ans, j'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux. Une personne anxieuse a très très peur de faire n'importe quelle erreur, parce qu'elle a peur de perdre sa valeur à partir d'une seule erreur unique. Alors que quand on a confiance en soi, quand on n'est pas attaché à son opinion, mais attaché à son raisonnement, j'ai pas de problème à dire sur ce sujet, j'ai pas d'opinion, je suis pas assez expert, ou bien on n'est pas encore sûr, parce qu'il y a plein de sujets. J'entends souvent les gens parler du lobby pharmaceutique, des médicaments psychiatriques, etc. Et personne ne dit jamais, c'est les meilleurs médicaments qu'on a aujourd'hui. Vous voulez quoi qu'on remette la camisole ? On ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de maladies psychiatriques, on fait de l'essai et de l'erreur, parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est pas parce qu'il y a un lobby derrière qui nous dit « gave les gens », on ne sait pas quoi faire. Parce que notre connaissance n'a pas encore atteint ce niveau. Et donc au lieu de se positionner, et je pense que ça c'est une erreur des experts, de se positionner comme une autorité du vrai, la science ne prouve jamais rien. La science fonctionne par réfutation. Le rôle de la science n'est pas d'apporter du vrai, c'est d'éliminer le faux. En science, on rejette une hypothèse nulle. E égale mc carré, c'est pas vrai. C'est beaucoup de gens ont essayé de prouver que c'est faux, personne n'a réussi. Et donc on considère que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Quand une hypothèse résiste pendant des siècles et des siècles à beaucoup d'attaques, de réfutations et on n'y arrive pas, on dit ok les gars, apparemment on a un truc solide et on appelle ça une théorie. Mmh. C'est des choses où on s'est dit ok, on est assez solide pour être 97% vrai, on a tout le temps des marges de significativité, et donc c'est pour ça qu'on a la théorie de la gravité, la théorie de la relativité, la théorie de l'évolution. C'est des hypothèses qui ont assez résisté à la réfutabilité pour qu'on les accepte comme vraies. Et des fois, quelqu'un vient et casse un peu l'édifice, comme par exemple Einstein a fait avec Newton. Mais c'est important d'expliquer que le vrai n'est pas à 100%. Et je pense pas que ça devrait être angoissant. Pour moi, c'est rassurant, mais peut-être parce que l'histoire que mon cerveau me raconte est différente.
C'est peut-être ça, en fait. Vous avez un peu commencé par ça, et c'était un peu un des sujets que je voulais aussi aborder avec vous. C'était sur... ces deux discours que l'on a en soi dès qu'on est face aux événements, quoi. Il y a le discours immédiat, donc cette jalousie, ce qu'on ressent, et puis comment on choisit de l'accueillir, je sais pas si c'est le bon terme, comment on choisit de le gouverner, qui peut être différent selon peut-être sa maturité ou selon le contexte et la culture que l'on a.
Alors ça s'appelle la métacognition. Méta, ça veut dire au-delà cognition de mes pensées. En anglais, on dit thinking about thinking. C'est les pensées que j'ai sur moi-même. En gros, c'est la petite voix avec laquelle on discute avec soi-même. Mmh. Et effectivement, au début, on a ce qu'on appelle des pensées automatiques. Donc j'appelle ma copine si je suis jaloux. Elle répond pas. Mon cerveau me dit « elle te trompe ». J'ai pas réfléchi, cette idée apparaît toute seule. C'est une pensée automatique. Et c'est la même chose pour les émotions, c'est la même chose pour l'intuition. Pour moi, l'opposition émotion-raison, c'est complètement illusoire. Ils fonctionnent 99% du temps de pair ensemble, main dans la main, pour créer cette construction du réel. Et ce contrôle métacognitif, donc cette métacognition, donc mon cerveau me dit « elle te trompe ». Après, je commence à parler avec moi-même. Ou bien je vais me dire « ouais, toutes les filles, toutes les femmes sont comme ça, elle est en train de me tromper, je valide ». Ma pensée automatique, ou bien si j'ai appris, c'est un entraînement, ça s'apprend. Je peux me dire, est-ce qu'elle me trompe vraiment? Genre, qu'est-ce que j'en sais? Ce qui est vrai, c'est qu'elle répond pas au téléphone. J'en sais rien. Peut-être qu'elle me trompe. Et le but, c'est pas de se dire, elle me trompe pas, parce que c'est aussi absurde. C'est d'essayer d'accepter l'incertitude. Le seul truc dont je suis certain, c'est qu'elle a pas décroché son téléphone. Et ça, c'est ce travail de métacognition. Et c'est ça la thérapie au final. Moi, quand je fais de la thérapie, j'apprends du contrôle métacognitif aux personnes. Pas seulement, parce que se raisonner, ça marche pas juste ça. Il y a à côté d'autres trucs qu'on peut faire. Mais c'est un des outils principaux pour cette gouvernance et de pas juste accepter automatiquement. Je suis en train de conduire, quelqu'un me coupe. Mon cerveau fait l'hypothèse que la bonne émotion maintenant, c'est de m'énerver, d'ouvrir la fenêtre, de klaxonner et de l'insulter. Je vais faire un doigt d'honneur. Ça, c'est automatique, je peux pas l'empêcher. Par contre, je peux ne pas l'accepter, ne pas agir dessus. La phrase que j'aime bien, c'est « je ne suis pas responsable de ma première pensée ou de ma première émotion, mais je suis responsable de ce que j'en fais ».
Oui, c'est ça. Et alors, tous ces sujets-là sont passionnants, mais d'habitude, on les entend chez des neuroscientifiques ou chez des neurologues. Moi, j'avais découvert un peu tous ces sujets-là avec Lionel Nakache.
Bonjour Lionel.
Et du coup, Le lien, enfin c'est bizarre, c'est comme si on reliait les sciences humaines aux sciences dures de manière, enfin assez extraordinaire. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, mais il y a quelque chose que je trouve formidable dans la science en ce moment qui se passe avec ce phénomène-là de la cognition, et j'appelle ça même moi personnellement une révolution cognitive qui vient après la révolution numérique et donc du coup qui va avoir les mêmes types de chamboulements dès lors que le grand public va commencer à s'en emparer. On ne sait pas, mais
après moi je suis un peu l'incarnation de ce que tu dis parce que moi j'ai fait des études de psychologie clinique, donc j'ai fait un master, et après les modèles théoriques, je suis très attaché à la philosophie de la science, les modèles théoriques de la psychologie ne me satisfaisaient pas, donc j'ai fait une thèse en neurosciences à côté, donc j'ai fait les neurosciences et la psychologie, et donc quand j'étais avec mes potes psychologues, ils me tapaient sur la tête en me disant « Vous, les scientifiques, vous réduisez l'homme à des statistiques. » Et quand j'étais avec mes potes neuroscientifiques, ils me tapaient la tête en me disant « Vous, les psychologues, vous êtes dans vos rêves de délire, d'interprétation et je sais pas quoi. » Mais depuis, j'ai trouvé une maison, ça s'appelle les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est une discipline émergente qui a dit « Écoutez, pendant longtemps, on a séparé le corps de l'esprit. » Et donc, on a laissé la science étudier le corps avec la neurologie, etc. On a laissé plus la philosophie, la psychologie étudier l'esprit avec la psychanalyse, etc. Et on a besoin, pour comprendre le développement de l'appareil psychique humain, des deux approches. On a besoin de créer des modèles théoriques qui font état du ressenti subjectif de la vie, mais aussi qui soient cohérentes avec le fonctionnement biologique du cerveau. Et donc les sciences cognitives, c'est une discipline émergente qui allie la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, les neurosciences, la neurologie, et l'intelligence artificielle pour le traitement de données, puisque le cerveau est très 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 complexe. Mmh. Et donc on est maintenant en train d'essayer de développer des théories unificatrices, comme pour la physique, pour les champs électromagnétiques, etc. Mais pour l'appareil psychique humain, qui soit cohérent aussi bien avec ce que je vois, l'humain, mais le cerveau, qui est la base de l'humain. Est-ce que ça va faire une révolution? Je sais pas, le cerveau est hyper compliqué. Mmh. Et du coup, si ça va le faire, on en a encore pour un moment.
Petite parenthèse rapidement parce que je suis aussi un peu informaticien et du coup quand vous parlez d'intelligence artificielle,
ouais, c'est pour le traitement des données, les modélisations computationnelles, etc.
Mais du coup c'est quelque chose que vous voyez arriver dans vos labos?
Ah, c'est déjà le cas. Mes meilleurs amis, Stefano Badminteri, il fait des modèles computationnels
sur la prise de décision sur la base de travaux de neurosciences.
Il est neuroscientifique.
Okay.
On a maintenant des data scientists, des personnes qui travaillent sur l'intelligence. Quand je dis intelligence artificielle, c'est pas genre Siri et Google Home, hein. C'est des modèles computationnels qui vont prendre les données. On va faire parce qu'en science, on doit faire un modèle théorique qui explique comment la chose marche. C'est pas assez de voir si ça marche ou pas. Et ça aussi, c'est une fausse conception. C'est pas genre on fait un modèle, on fait des tests placebo, machin, et si ça marche, on dit ouais, ça marche. On a besoin de comprendre comment ça marche pour éviter de retomber dans les pièges. La méthode scientifique, c'est récent. Mmh. C'est le 20e siècle, fin du 19e. Parce qu'avant, par exemple, la saignée, on l'a fait pendant 3000 ans. Tu es malade, on se dit, ah, tu as une maladie dans ton corps, donc on te saigne pour la sortir. On appelle ça des explications intuitives. Et on a compris que se fier juste au résultat, c'est pas assez. On a besoin de se demander comment est-ce que ça marche. Et donc, pour faire ces modèles, parce que la science, en fait, ça va faire un peu long peut-être, mais peut-être c'est intéressant. La science fonctionne sur trois principes. Le principe de réplicabilité, donc si je fais quelque chose et toi tu refais la même chose, tu vas trouver la même chose que moi. Le principe de falsifiabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la science prouve par l'erreur et pas par la justification. Donc il faut quelque chose, on ait un design expérimental où il y a un résultat qui peut infirmer ce que je propose, pas prouver, mais infirmer, donc contredire. Et le troisième, c'est la notion de prédictibilité. Je dois développer un modèle théorique qui me dit, si je prends A, les conditions A, B, C, mon modèle prédit qu'il va y avoir D. Et après, je le confronte au réel. Et si ça marche pas, c'est que mon modèle est pourri. C'est ça qui nous permet de construire des voitures. Mmh. Parce que les modèles théoriques en physique, par exemple, le déplacement des objets dans l'espace, il est assez bon, assez pas faux, pas assez vrai, assez pas faux, pour qu'on puisse calculer comment on va envoyer un satellite dans l'espace. En sciences humaines, on est encore très loin de modèles prédictifs. Et donc, on a besoin de développer des modèles théoriques qui peuvent être prédictifs pour qu'on puisse être sûr qu'on est en train d'acquérir de la bonne connaissance et pas juste on est en train d'avoir des raisonnements motivés et de croire ce qu'on a envie de croire.
Alors du coup, c'est un peu flippant quand même. C'est, ouais, là, c'est vraiment on est là on est vraiment dans le truc du réductionnisme, quoi. C'est-à-dire de dire puisque on peut tout expliquer comme une sorte de mécanique, On réduit en fait un être humain à une sorte, à une mécanique soit un peu complexe ou très complexe, mais on le réduit.
Pourquoi, pourquoi on le réduit? Pourquoi le mot réduire? Pourquoi c'est une réduction?
Ben parce que on le définit à partir de processus très simples.
Ils sont pas du tout simples et surtout on a des facteurs d'erreur. C'est-à-dire c'est très différent prédire une balle et prédire, je dirais pas un humain, mais prédire un organisme unicellulaire, prédire comment il va se déplacer dans un liquide, c'est infiniment plus compliqué. Au contraire, pour moi, quand on s'intéresse à ces sujets, on réalise que le mot réduire, c'est au contraire, on essaye de complexifier l'homme.
D'accord.
Pas de le réduire. On est je sais pas, moi, quand je vois le mécanisme d'action d'une mitose, d'une division cellulaire, je sens pas du tout que c'est une réduction, qu'il y ait une plaque qui se crée au milieu et puis les filaments des chromosomes s'accrochent à cette plaque, puis la cellule commence à s'écraser, les chromatides commencent à s'éloigner, à migrer vers l'épaule et puis ils commencent à se redédoubler. Si quelqu'un a envie de me dire que c'est des processus simples, qu'il vienne me voir un peu pour qu'on en parle.
D'accord.
Parce que j'ai un prix Nobel pour lui.
Je connais des gens qui travaillent sur ces processus et qui effectivement pourraient passer plusieurs vies à travailler sur ces sujets.
Voilà, et ils sont même pas sûrs d'arriver. Souvent, les personnes qui vont penser que c'est une réduction, c'est qu'ils ne se sont pas encore frottés à la complexité du sujet. On appelle ça l'illusion de connaissance. Quand
le principe dont j'ai parlé tout à l'heure.
Ok.
Non, est-ce que c'est le principe?
Oui, c'est le principe.
D'accord.
Dont on n'a pas parlé encore.
J'avais parlé le comment, du pourquoi, le pourquoi du comment.
Oui, c'est un peu lié à l'illusion de connaissance, c'est ce sentiment qu'on a d'avoir compris quelque chose très vite, la première fois qu'on est exposé à ce truc. La première fois que quelqu'un te parle d'intelligence artificielle ou de blockchain ou de bitcoin, tu dis c'est bon, je peux devenir riche. Et après, tu perds tous tes sous et tu commences à réaliser que c'est un peu plus compliqué que ça.
On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques instants.
Pour la carte, l'ensemble des papiers avec votre pouce droit, continuez à parler, allez lentement, et enfin positionnez le paquet comme ceci dans votre main gauche pour en fait faire tomber justement.
On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, l'âme est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça me rend dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche,
tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, les sabres dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Alors, Albert,
oui.
Est-ce que vous avez besoin d'être aimé et admiré?
Ce serait cool. Je sais pas si c'est un besoin, mais...
Est-ce que vous avez tendance à être critique avec vous-même?
Oui.
Est-ce que vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage?
Bien sûr.
Est-ce que vous avez certains points faibles dans votre personnalité? Vous savez généralement les compenser?
Évidemment.
Et est-ce que vous avez dû gérer les problèmes dans votre vie sexuelle?
Comme tout le monde.
Ah. À l'extérieur, est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous savez vous contrôler? Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même.
Comme tu peux le voir, et de dedans, je flippe ma race.
Parfois, est-ce que vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait?
Tout le temps.
Mais alors, est-ce que vous préférez une certaine dose de changement et de variété et être... Et est-ce que vous êtes insatisfait si on vous impose des restrictions et des limitations?
Tout à fait. Je suis un esprit libre.
Ah. Vous vous flattez peut-être d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez pas l'opinion d'autrui sans preuve alors?
C'est exactement ce que j'ai dit.
Ah d'accord. Bah, alors vous trouvez qu'il n'est pas très sage de se révéler trop facilement aux autres?
Donc.
Alors est-ce que par moment vous êtes extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes plutôt introverti, circonspect et réservé?
Oui, j'aime les gens et j'aime être seul.
Et est-ce que certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes?
Le prix Nobel.
Vous rêvez du prix Nobel?
Tous les jours, avant de me dormir, quand je me réveille le matin et je me rase.
D'accord.
Je pense au prix Nobel.
Ok. Vous dites ça avec un grand sourire, mais est-ce que vous êtes sérieux ou pas?
Je pense que c'était Sarkozy qui avait dit ça.
Oui, non, se raser, lui, ouais. il se rase très régulièrement.
Il se rase et il pense à être président.
Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous pensez au prix Nobel?
Non, parce que c'est un prix capitaliste.
Ah, d'accord, très bien. Est-ce que la tranquillité est un de vos buts principaux dans la vie?
Bien sûr, je suis un grand flemmard.
Est-ce que vous avez reconnu les questions que je vous ai posées?
Oui.
Oui, j'imagine.
C'est l'effet Forer.
D'accord. Parce que, en fait, votre livre est... plein de ces biais cognitifs,
ouais.
Et qui en fait s'entrechoquent et construisent notre personnalité, notre perception du monde. Et donc par exemple, là, celui que je viens de faire, est-ce que vous pouvez m'en parler?
Alors c'est un chercheur qui s'appelle Bertrand Forer, et l'effet s'appelle l'effet Barnum, en hommage à P.T. Barnum qui faisait le cirque Barnum, qui a voulu comprendre
Comment fonctionnent les tests de personnalité, souvent en entreprise? Je ne sais pas si certains connaissent, le plus connu s'appelle le MBTI, qui vous divise en couleurs rouges, bleues, jaunes, plutôt introverti, plutôt extraverti, etc. Ou bien c'est le même fonctionnement que les horoscopes, par exemple. Pourquoi les gens continuent? Pourquoi est-ce qu'il y a encore les horoscopes dans les journaux? C'est complètement dément. Et beaucoup de gens y croient. En fait, ce qu'il a fait, cette expérience, donc c'est ces points que vous avez lus dans lesquels je me suis reconnu, parce que l'expérience, c'est il est allé voir ses étudiants en médecine, je pense que c'était la deuxième année ou troisième année de médecine ou de psychologie, je me souviens pas. Il leur a dit, j'ai développé un nouveau test de personnalité, génial. Il suffit que vous me donniez votre date de naissance, je sais plus c'était quoi, son groupe sanguin, quelque chose. Et moi, je vais rentrer chez moi, je vais mettre ça dans mon nouveau questionnaire et je vais venir le lendemain avec des prédiction personnalisée sur vos traits de personnalité. Et je veux que vous mettiez une note sur combien est-ce que vous reconnaissez dans ces prédictions. Donc il rentre chez lui, le lendemain il revient avec des lettres personnalisées, il les donne à chaque nom, Olivier, Jacques, François, Martine, etc.
Ouais.
Pedro, les élèves l'ouvrent, lisent le texte, le notent, il reprend, il fait la moyenne, il avait 4.3 sur 5 de taux de satisfaction, ce qui est incroyable. Alors 90% de prédictions justes sur des têtes de personnalité. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait donné le même texte à tout le monde. Il avait découvert cet effet qui dit que si on écrit un texte d'une certaine manière, tout le monde peut se reconnaître dedans. Les tests de personnalité en entreprise, souvent, sont sur ce principe. Donc si quelqu'un passe le MBTI, donc tu passes le MBTI, on me donne les résultats à moi, on me dit ça c'est le tien, je me reconnais dedans. Et pour qu'un effet Forer fonctionne, il faut que dans les prédictions de personnalité, première chose, qu'il y ait assez d'éléments positifs, à peu près 70 à 80% dans lesquels les personnes peuvent se reconnaître, ce qui était vrai pour ce texte-là. Il faut que ça soit fait par une personne que vous considérez comme un expert. Et souvent, des tests personnalités en entreprise, par exemple, c'est des gros instituts qui ont des certifications qui le font. Et trois, il faut que vous croyez que c'est fait pour vous, que c'est personnalisé. Et quand vous avez ces trois piliers, si en plus vous rajoutez que ça coûte cher, donc vous actionnez un autre levier qui est basé sur la dissonance cognitive, vous déplacez la responsabilité de l'efficacité du test sur la personne qui est testée. Et c'est elle qui va faire le travail de se convaincre que c'est tout à fait vrai. Donc les phrases que tu étais en train de lire, peut-être que c'était pas évident pour les auditeurs parce qu'on faisait une sorte de ping-pong, mais tout le monde se reconnaît dedans. C'est un peu le principe Nostradamus, mais en un peu avec la ficelle qui est un peu moins grande.
D'accord. Alors ça veut dire que le test MBTI, c'est du flan? Merde.
Ça va être plus simple.
Ah, je suis très, très
c'est du gros flan. C'est un des plus gros flans et ils n'aiment pas du tout quand je dis ça, mais c'est pas de ma faute.
Et qui, ils?
L'institut du MBTI.
Ah oui, d'accord.
C'est 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an.
Ah oui, quand même, oui.
C'est pas genre, ils font 200 euros le MBTI en moyenne pour un employé. Selon l'entreprise, ils font payer soit 300 euros, soit 1000 euros par employé pour faire le test. En gros, pour te donner un horoscope glorifié. C'est un peu cher l'horoscope, quoi.
Alors c'est ok, c'est super. Mais moi alors j'étais vraiment persuadé que j'étais un extraverti, même si quand même je me disais ça m'arrive quand même d'être un peu introverti.
Exactement. Et je dis pas que les ça existe pas être extraverti introverti. Je dis que ces tests ne mesurent absolument pas ce qu'ils disent qu'ils mesurent. C'est tout.
D'accord. Mais alors est-ce que c'est la même chose pour les bilans de compétences?
Alors certains oui, certains c'est un peu la même chose.
Ouais.
Parce que en fait. C'est là où les modèles théoriques sont importants. C'est que il faut se demander comment est-ce que ça marche. Et donc pour faire comment est-ce que ça marche et pourquoi c'est pas du réductionnisme ce qu'on essaye de faire et au contraire c'est montrer combien l'homme est un animal complexe ou le monde naturel, pas seulement l'homme. Le bilan de compétences part du principe d'un modèle théorique qui dit en répondant à certaines questions, je peux moi avec un outil savoir dans quel environnement professionnel vous allez évoluer le mieux. Ça peut être des tendances. Et ça, s'ils disent que c'est des tendances, je ne serais pas contre. Mais ils disent que c'est là où vous serez le mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une erreur qu'on appelle l'erreur de la cause unique. Ils pensent que vos préférences sont le seul facteur dans votre satisfaction professionnelle. Alors que peut-être que moi, j'adore travailler en psychiatrie, mais je tombe, comme tu disais tout à l'heure, sur un psychiatre qui est toxique. Je fais quoi de mon bilan de compétences? Peut-être que moi, j'aime beaucoup l'art, mais j'aime aussi être confortable dans ma vie et m'acheter des habits de luxe. Si je fais artiste, je vais probablement finir pauvre. J'en fais quoi? Le problème de ces tests, c'est que souvent, ils font cette erreur de la cause unique, où ils prédisent, ils prétendent que dans leur modèle théorique, qu'un facteur, en gros, les questions qu'on te pose, donc ton ressenti subjectif sur qui tu es, est un bon prédicteur de quelque chose d'aussi complexe que ma satisfaction de ma vie professionnelle. Alors qu'il y a des tonnes d'autres facteurs. Le rythme de travail, le lieu, combien de temps est-ce que tu passes dans les transports? Est-ce que ton boulot est à 4 heures ou à 20 minutes? Les collègues, est-ce que c'est un open space ou pas? Est-ce que la structure est verticale ou pas? Est-ce que... Et tous ces facteurs rendent l'effet subjectif quasi nul. C'est pas par hasard qu'une grande partie des enfants font le métier de leurs parents. C'est pas génétique. C'est acquis. C'est ce que je vois. Je me dis, mon père a un bureau d'avocat, je vais faire avocat et comme ça après, je vais pas me prendre la tête. Et ça, dans un bilan de compétences, on te demande pas quel est le métier de ton père. On te demande pas c'est quoi l'entreprise familiale. On te demande pas est-ce que tu préfères le froid ou le chaud pour savoir est-ce que tu dois plutôt vivre dans une ville du nord ou dans une ville du sud, pour faire un peu caricature sur le climat. Quoi.
Mais alors du coup...
Mais ça veut pas dire que c'est inutile. C'est des tendances. Le MBTI, c'est inutile. Hein,
Soyons clairs.
Pour certains bilans de compétences, on peut... En gros, c'est des outils que j'appelle d'explicitation de la parole. Si tu as du mal à t'exprimer, c'est plus simple de te faire exprimer sur des questionnaires et après trouver un texte et on en discute, que de te dire mais toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Donc d'un point de vue de libération de la parole, ça peut être des outils intéressants. D'un point de vue genre, toi tu aimes faire, tu as envie d'être architecte, tu fais un bilan de compétences, tu dis non absolument pas, il faut que tu travailles dans le RH, ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi.
D'accord. Et donc on me susurre à l'oreille d'autres types de tests, les fameux tests de QI.
Alors là aussi, gros problème. Pas parce que le test de QI n'est pas bon. Le test de QI, donc, qui s'appelle la VICE. En fait, je donne le cours à la fac d'échelle psychométrique. Donc, comment mesurer la psychologie.
Ah ouais.
Donc, je m'y connais un peu. La VICE, nous, on l'utilise en tant que psychologue, en tant que professionnel de la santé mentale, en tant que mesure du développement de quelqu'un. Donc, est-ce que tu es en train de te développer d'un point de vue cognitif et surtout mnésique? Parce qu'une grande partie des tests, donc du test de QI, parce que c'est la VICE, c'est pas vraiment un autre, les autres, c'est vraiment plus un peu comme le MBTI. Il y en a deux, trois, mais en général, ceux qui sont utilisés sur Internet et tout ça, c'est pas ça. C'est souvent, quelle est ta mémoire de travail? Quelle est ta compréhension verbale, etc. Pour voir comment est-ce que tu te développes. Pas pour voir si tu es intelligent ou pas. Et là, on revient à la cause unique. Je peux avoir un QI, donc un score sur la VICE de 135, et donc avoir une très bonne mémoire du travail, etc., etc., et être un gros raciste, parce que les valeurs, c'est pas corrélé à l'intelligence.
D'accord.
Je peux être complètement avoir un QI de 80, donc pas vraiment en dessous de la moyenne. En gros, la moyenne, c'est 100.
Ouais.
À chaque année, on réindexe. Si toi, tu passes le test de QI du temps d'Einstein, tu as un QI plus élevé qu'Einstein. Parce qu'on réindexe à la population. Et donc, l'interprétation du test du QI est complètement faussée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend par le mot intelligence. Ça a à voir avec le développement des compétences cognitives et mnésiques d'un individu par rapport à la population qui l'entoure. C'est tout. Et nous, on l'utilise dans ce qu'on appelle la psychologie développementale.
C'est un rapport, en fait.
C'est un rapport qui est mesuré par rapport à un échantillon de la population et qui est indexé sur 100. Au 100, c'est tout le temps la moyenne, on le réindexe. Et si tu es au-dessus de 100, c'est que tu es un peu en avance et que tu es un peu en retard. Mais pas tu es plus intelligent, parce que déjà le mot intelligence, l'intelligence, pour revenir à réductionnisme, l'intelligence pour un chercheur, c'est un des trucs les plus complexes au monde, parce qu'il faut le définir. Et il y a l'intelligence qui est liée à la capacité de... C'est comme la créativité, les ateliers de créativité en entreprise. Ça ne veut rien dire. C'est ça qui est réductionniste, en fait. C'est de dire, moi, je peux t'entraîner en 2 heures à devenir plus créatif. Genre, vraiment, genre, prix Nobel.
Mais il y a peut-être la possibilité de développer ces capacités de...
De création
pas de création, mais d'être décontracté, de se laisser aller, ou d'ouvrir un peu, de laisser de côté ces tensions. C'est-à-dire, on peut aussi se dire que dans un atelier de créativité ou de développement de créativité, on pose un cadre où tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, ne va être jugé, et ce qui compte, c'est le résultat final, et que le résultat final appartient au groupe, et du coup, on baisse la tension par rapport au contexte, éventuellement, et on s'enrichit des avis des autres, et on est dans un feedback optimal.
Alors là, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de développer la créativité, tu es en train de réduire les freins de l'humeur sur quelque chose qui est déjà chez la personne.
D'accord.
Mais si moi, par exemple, je n'ai jamais pris des cours de peinture, je ne sais pas tenir un pinceau, je ne connais pas la théorie des couleurs, je sais pas c'est quoi la différence entre une gouache et une aquarelle.
Ouais.
Et tu me dis, je vais te faire un atelier de créativité, après tu vas peindre mieux. Non.
Ok.
La créativité implique un travail derrière.
D'accord.
Donc si moi, j'ai bossé pendant 10 ans le saxophone, mais je suis très très anxieux, donc j'arrive pas à faire le solo, et toi tu viens et tu m'apprends à gérer mon anxiété,
ouais,
ce qui me permet d'avoir accès à mes compétences que j'ai déjà acquises, dans ce cas-là, je m'inscris à ton atelier le lendemain. Mais c'est pas ça qui est vendu dans les ateliers de créativité. Si c'est posé comme ça, bien sûr. Bien sûr, si tu peux aider quelqu'un à reprendre contrôle de son attention, parce que pourquoi l'anxiété nous empêche ou ne pas se sentir libre, etc., etc. C'est que ton attention est divisée. Et donc tu peux pas te concentrer sur un truc, parce que tu es en permanence en train de te dire, est-ce qu'on va penser que c'est bête? Est-ce qu'on va pas trouver ça bien? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et donc tu as pas accès. C'est comme quand on conduit. Si tu as besoin de te concentrer, des fois on baisse la radio.
Ouais.
C'est quand même absurde de baisser la radio, c'est parce que j'ai besoin de mobiliser mes ressources attentionnelles et qu'il n'y ait plus mon cortex auditif.
D'accord.
Qui est en train de traiter une autre information. Si les ateliers de créativité disent « cette personne a fait le travail mais n'a pas accès aux compétences qu'elle a acquises parce qu'elle est stressée ou parce qu'elle a peur du jugement de l'autre ou parce qu'elle est limitée par ce qu'on va penser de ce qu'il va dire et donc on va l'aider à se désengager de ça pour qu'il ait accès à ses compétences, bien sûr. »
Mais alors du coup,
mais c'est très différent.
Tout à l'heure, dont tu parlais d'intelligence et de ces personnes qui sont peut-être à 120 ou 130 ou je sais pas
150,
si, 150. Ce sont des gens qui savent compartimenter d'une certaine manière.
Qui savent compartimenter pendant le test.
Ouais.
Parce que moi, je peux être dans un test. Donc les tests, pour expliquer un peu à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs exercices.
Moi, j'en avais fait un. Pardon, excuse-moi. Ouais. J'en avais fait un sur Internet. Alors, je suis pas sûr que ça soit la meilleure manière.
Pas très indexé, ouais. Et tu as eu combien ?
100. J'étais extrêmement déçu parce que tous mes collègues, mais en même temps, j'étais dans un labo et il y avait des chercheurs, des thésards autour de moi. Ils étaient 120, 125, 130, quoi. Et du coup, j'étais un peu vexé. Et en même temps, je me dis, je comprends pas parce que quand je suis en train de débattre, quand je suis en train de discuter, je me sens bien, je me sens pas limité. Et puis, je convainc des gens, j'apporte des arguments. Et j'avais pas très bien compris le rapport de ça et de ça. Quoi.
Parce que ce test n'est pas corrélé aux compétences sociales. Si tu as un bon test à la Vice, tu as, par exemple, c'est un bon prédicteur pour la réussite scolaire. Tu vas avoir de meilleures notes à l'école. Pourquoi ? Parce que, un, tu es dans un environnement de test, et donc si tu arrives à avoir accès à tes compétences, c'est que tu sais gérer ton anxiété, ce dont on parlait il y a une seconde sur la créativité. Et deux, pour expliquer à quoi ça ressemble, il y a plusieurs sous-tests. Donc un test où on va te lire des chiffres et te demander est-ce que tu peux les répéter, et voir combien de chiffres tu peux retenir dans ta mémoire de travail. Ce que tu peux retenir. Donc 12, 15, 22, 62, 7, 9, répète. Et puis on rajoute un, on rajoute un, on rajoute un jusqu'à ce que tu arrêtes. Donc mémoire de travail. Compréhension. On va te demander de définir certains mots. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, peindre. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, table. Et on va complexifier les mots. On va voir où tu t'arrêtes. On va te donner des cubes avec des faces rouges et des faces blanches et des faces divisées en deux, comme le jeu du tangram, si tu vois c'est quoi. On te donne un dessin. Il faut que tu reconstruises le dessin avec les cubes.
Ah oui, oui,
est-ce
oui.
Est-ce que tu sais recréer le truc? On va te donner un exemple. 4 planches de BD. Il faut que tu réorganises l'histoire. Est-ce que tu es capable de comprendre comment une histoire fonctionne et donc les effets de causalité dans un rébus? On va te demander des questions de culture générale. Comment s'appelle le président des États-Unis? Quelle est la capitale de l'Australie, etc. On va mesurer ces différentes choses. Mais ça mesure tes compétences sur ces choses. Après, 6 mois, beaucoup de personnes qui ont un score sur la Vice très élevé, par exemple, ont beaucoup de problèmes avec la cognition sociale.
D'accord.
Ils ont pas, c'est pas les mêmes compétences.
Mais est-ce que ça crée des angoisses?
Ça crée une grande partie des personnes surdouées, des vrais, parce que là il y a aussi une mode de tout le monde est haut potentiel, machin.
Ouais.
Mais ceux qui ont vraiment, souvent, souffrent pas mal. Hein.
C'est quoi cette histoire de mode de haut potentiel?
Il y a en fait c'est un secret, il faut pas le dire.
Ouais.
Donc ça reste entre nous.
D'accord.
Il y a des modes, des fois en psycho, où les gens sont pris par un truc.
Ouais.
Et on a eu la mode bipolaire pendant une période.
Ah ouais.
On était un peu bipolaire. Puis on a eu la mode.
Ça, c'est marrant parce que moi aussi j'ai eu cette
mode. Oui, non, mais c'est un secret, il ne faut pas le dire, mais c'est pas grave.
Ok.
Il y a eu la mode hyperactivité.
Ouais.
Tous les enfants étaient hyperactifs.
Ah d'accord.
Et là, l'hyperactivité a été remplacée par le haut potentiel.
Tu peux en parler un peu plus ?
C'est des génies. En gros, si tu apprends un enfant, et si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'aurais vraiment adoré faire cette expérience. Tu prends un enfant, tu l'emmènes en 2005-2006, tu l'emmènes chez quelqu'un qui fait des bilans de compétences ou d'orientation, je sais pas quoi, tu lui montres l'enfant, il te dit ton fils est hyperactif. Tu prends le même enfant, le même jour. Tu l'emmènes maintenant, aujourd'hui, en 2019. Et bim, il est au potentiel. Parce qu'on revient à l'histoire. C'est pas parce que les experts ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'on ne sait pas encore ces choses. On ne sait pas tout encore. Mmh. On cherche, on travaille, on se casse la tête, on se trompe. Parce que la science fonctionne par réfutation, ne fonctionne pas par la preuve. Mmh. Et c'est important de le dire, parce que je préfère de loin quelqu'un qui essaye et qui se trompe que me réfugier dans des... C'est ça un dogme, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, dans un dogmatisme qui dit « on sait ».
D'accord. Vraiment, tu m'intéresses sur ce truc de HPI, je vais creuser un peu plus.
Creuse le HPI. C'est tout un business. Tu peux même devenir thérapeute HPI en 2 mois, si tu veux.
mais en fait, le truc, c'est que ça peut aussi répondre à des vraies souffrances, non ?
Bien sûr, il y a des personnes qui sont HPI et qui souffrent. Je dis pas que les HPI, ça n'existe pas.
Non, non,
c'est sûr, diagnostiqué fois 1000 en ce moment.
D'accord.
C'est tout. Et souvent, ils souffrent, oui, bien sûr, ils souffrent. C'est...
Est-ce que je veux dire,
être
c'est
spécial,
que
c'est une souffrance.
Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut ressentir des souffrances de. Je sais pas, bah, par exemple, face à une proposition de ton test, d'avoir dans son cerveau plein d'images, plein de possibilités et d'être débordé et que rien que cette possibilité, cette multitude de possibilités qui s'affichent, soit analysé comme du HPI alors que c'est juste. Enfin, c'est autre chose ou que ça n'a rien à voir, quoi.
Les personnes qui sont diagnostiquées HPI, souvent, on leur fait pas le test, la VICE.
Ah oui ?
Non.
Parce que...
On ne fait pas de test, on les diagnostique différemment.
D'accord.
C'est des personnes qui, il y a quelques années, ont été hyperactives. Il n'y a pas de test. Il y a des tests de l'hyperactivité, mais souvent, c'est pas.
Donc en gros, quand il n'y a pas de test, c'est à ce moment-là qu'on a découvert. Enfin, il y a une mode qui se développe, quoi.
Et des fois, quand il y a le test. Parce qu'encore une fois, un test, ça s'interprète basé sur une indexation de la population. Donc ça dit pas grand chose sur la personne, ça dit plus sur son entourage. Et par exemple, les tests d'intelligence sont hyper culturels. Et ça aussi, c'est encore un autre, pour voir combien c'est complexe. Ouais. Par exemple, le test de QI, s'il est indexé sur les Américains, et tu le fais passer à des Écossais, le résultat ne sert à rien. Parce que, si moi je suis pas habitué à lire des BD, tu me donnes le truc de réorganiser l'histoire, bah j'y arrive pas. Parce que je suis pas habitué à ce truc, donc tu dois me faire un autre test. Mais, il y a pas souvent, malheureusement, parce que les sciences sociales, par exemple en France, sont considérées des matières littéraires, grande partie du temps, on importe des tests anglais, parce que, et là c'est encore une autre complexité, à cause de la politique, on pense que le monde occidental, c'est un truc uniforme. D'accord. Mais un Espagnol et un Américain et un Anglais et un Allemand n'ont rien à voir autant qu'un Espagnol avec un Congolais et un Brésilien. C'est à cause des divisions politiques, on a l'impression que les divisions humaines ne sont plus là, mais... Donc il y a plein de problèmes. Après, le test du QI a été validé pour la culture française, mais là aussi, il y a plein d'autres facteurs qui font que les populations sur lesquelles sont indexées sont souvent des populations blanches, cadres supérieurs, très normées, etc. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de HPI, il y a des personnes qui sont HPI, qui peuvent en souffrir, d'autres qui n'en souffrent pas. Mais aujourd'hui, on est en train de surdiagnostiquer de la même manière qu'on faisait avec l'hyperactivité. Et qu'on a fait pendant une période avec le trouble bipolaire.
Est-ce que ça permet de vendre des bouquins, par exemple ?
Pendant schizophrénie.
Ça permet de vendre des bouquins, notamment ?
Oui, tu peux taper aujourd'hui sur la Fnac.fr ou Amazon, ou aller dans ta librairie et demander est-ce que vous avez des trucs sur les hauts potentiels, et tu vas voir qu'il y a genre une sorte de déluge sur les 5 dernières années. Alors que le test du QI a été développé dans les années 40.
Ouais.
Donc, et on dit qu'on est en train de devenir de plus en plus bête. Donc c'est un peu...
paradoxal.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là ?
Le hasard.
Je suis très curieux de ce hasard.
Le hasard. Je suis d'origine libanaise, j'ai grandi au Liban. Et je suis assez flemmard. J'aime pas trop travailler. Et je milite pour qu'on travaille tous moins. J'étais secouriste à la Croix-Rouge. Non,
ouais.
C'est une histoire vraie. Hein.
Ah ouais, non,
j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et quand j'avais 16-17 ans, j'étais assez précoce, pas HPI. Précoce sur tout ce qui est informatique, j'étais un peu geek. Et du coup, j'ai été recruté par un pote qui avait fondé sa boîte, qui était partenaire avec Microsoft pour travailler en informatique. Du coup, j'ai quitté la fac et je disais à mes parents que j'allais à la fac, mais j'allais au taf. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et au bout d'une année, mon père me dit bon, il faut payer les frais de scolarité, parce qu'au Liban, la scolarité, c'est pas gratuit comme ici, ou en tout cas, c'est pas cher. Donc mon père a besoin de payer. Je dis bah, t'inquiète pas, c'est réglé parce que je suis plus à la fac. Et il m'a dit non, tu peux pas. Genre, tu peux faire ce que tu veux, tu fais informatique, tu fais informatique. À la base, je devais faire médecine. Mais il faut que tu aies un diplôme, parce que si la boîte de ton pote ferme, comment est-ce que tu vas faire pour retrouver du boulot? Donc je reprends la fac, je vais au cours d'informatique, je déteste ça, c'est un cauchemar. J'étais à l'université américaine.
Pourtant, c'était ton boulot.
Bah, c'est là où on revient au bilan de compétences. J'adorais ça en tant que métier. Et franchement, quand c'est devenu mon métier, en plus, allez, je faisais du support et des déploiements de réseaux et des choses comme ça. Au bout d'un an et demi, j'en pouvais plus de me réveiller tous les jours, d'aller au travail tous les jours de 9h à 17h, etc. C'était vraiment pas un truc cool. Alors que tous les gens de la boîte, c'était mes potes et on s'amusait énormément, ouais. Mais c'était pas trop mon truc. Les cours ont validé que c'est vraiment pas ce que je veux faire tous les jours. Et j'étais à l'université américaine de Beyrouth. Et dans le système américain, tu peux prendre ce qu'on appelle des electives, des cours qui n'ont rien à voir avec ton département, pour essayer. Et du coup, pendant un an, j'ai un peu erré à la fac, où je prenais des cours de tout et n'importe quoi, des cours de poterie, des cours d'écriture, de rédaction, des cours de comment s'occuper d'animaux domestiques, genre n'importe quoi. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Et j'ai aimé ça. Et puis, il y a eu un prof qui s'appelle Ernie Dietcher, qui est devenu un pote, qui était un Allemand, qui était un neuroscientifique, qui est arrivé au département de psycho à ma fac.
À Beyrouth,
qui m'a parlé de trucs de neurosciences, et je me suis dit, ben, c'est cool ça, parce que je m'intéressais beaucoup à la philosophie de la science et tout ça. Et donc j'ai fini avec une licence de psycho et un doc de bio. Et c'était fini là. J'ai une pote, donc pour revenir à la Croix-Rouge, et pourquoi j'étais... Une pote qui était avec moi à la Croix-Rouge, j'étais venu en France un an avant, parce que sa famille avait déménagé en France, et me dit... À la fac où je suis, il y a un master de psycho. Est-ce que tu veux que je te présente un dossier? Parce qu'elle s'est fait pertinemment bien que moi, jamais je présenterai un dossier, puisque je suis pas organisé, je suis flemmard. En tout cas, je lui dis OK, elle me présente un dossier, je suis pris. Je dis à mes parents, bah, je vais aller faire un master de psycho en France. Mes parents disent OK, genre, au moins il fait quelque chose. Donc je viens en France faire mon master, je cherche un stage désespérément, j'en trouve pas, je finis à la pitié salpêtrière, je leur dis, écoutez, j'étais secouriste pendant 5 ans, je peux faire les permanences de nuit. Je suis décalé, moi je me couche vers 5-6 heures du matin, je me réveille vers 13 heures, okay. Comme tout bon flemmard qui se respecte. Ils me disent, bah écoute, genre, on peut pas te dire non, il y a jamais un stagiaire qui veut venir faire des permanences la nuit, donc si tu es taré, genre vas-y. Donc j'ai fait 2 mois de stage la nuit, et après, vu que la familiarité, c'est le meilleur piston au monde, je suis devenu pote petit à petit avec les équipes de nuit, j'ai commencé à dire, est-ce que je peux venir le jour? Genre juste une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis j'ai viré mon stage en psychiatrie adulte la journée. Et à l'époque, pour t'expliquer combien c'est le hasard, le labo du département venait de recevoir un casque de réalité virtuelle.
Ouais.
Et comme tu sais, la psychologie en France, c'est une matière littéraire. Donc en général, les psychologues et la technologie sont papotes. Ouais, mais tadam, l'informaticien psychologue était là. Donc mon directeur de stage me dit, écoute, tu as l'air de t'y connaître sur ce truc de réalité virtuelle. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir un master de neurosciences? Est-ce que tu veux pas faire ton master 2 de neurosciences à Paris 6? Ouais. Et on travaille sur la casque de réalité virtuelle pour ton projet de mémoire.
Alors, je suis désolé, mais alors, les neurosciences et le casque de réalité virtuelle.
En fait, j'étais dans le département de psychiatrie.
Oui.
J'ai une licence de bio, un master de. Je suis en train de faire mon master. J'ai une licence de psycho, un doc de bio, donc j'ai des notions de biologie. Et je suis en train de faire mon master 1 de psycho. Mmh. Mon directeur de thèse, mon directeur de stage à l'époque, reçoit le casque, veut quelqu'un pour faire des recherches dessus, mais la majorité des psychologues, ils s'y connaissent pas vraiment. Ouais, ouais. Lui, il est en train d'ouvrir en même temps un master de neurosciences avec Paris 6, qui existe déjà, qui s'appelle le BIP. Et il me propose, il me dit, vu que tu as ça, tu as le bagage pour rentrer directement en M2 de neurosciences. Est-ce que ça t'intéresse? Donc de quitter la psycho et de virer en neurosciences. Je me suis dit, je viens du Liban, ma première année, quelqu'un me propose un truc garanti, je ne vais pas dire non.
Ouais.
Je dis oui. Je commence à travailler sur la phobie sociale, donc la peur de l'autre, avec des casques, pas de réalité virtuelle, mais de tracking oculaire. Je peux examiner comment tu regardes des visages humains en suivant ton regard. Mmh. Ça se passe relativement bien. Et là, mon directeur de stage, le même, professeur Antoine Pellissolo, que je salue s'il nous écoute, et que je remercie d'ailleurs dans le livre, parce que c'est grâce à lui qu'une grande partie de qui je suis est là, il me dit, écoute, il y a aussi des bourses de thèse. Et on peut faire de ton projet de mémoire une thèse sur l'évitement du regard dans la phobie sociale. Est-ce que tu veux présenter au panel et voir si tu peux avoir la bourse de le ministère de l'Éducation? Je dis OK. Je présente, je l'ai. Je dis à mes parents, bah, apparemment, je vais faire une thèse. Mes parents, ils étaient. À la base, je ne suis pas supposé passer le bac.
Ouais.
Du coup, là, je suis en train de faire une thèse. Donc, je suis à bac plus 9. Du coup, j'ai fait une thèse. Par hasard. au labo en travaillant sur mes casques et tout ça. Et après, quand j'ai fini
en utilisant des casques virtuels à une époque où c'était
il y en avait quasiment pas. Hein.
Ouais.
Des casques virtuels et des casques de tracking oculaire. Donc je fais ma thèse de neurosciences, mais j'avais pas le titre de psychologue. Du coup, à ma soutenance de thèse, parce que j'avais arrêté en M1, à ma soutenance de thèse, il y avait la directrice du département de psychologie de Paris 8, qui aime beaucoup mon travail, qui me dit, écoute, est-ce que tu veux donner des cours à la fac? Je lui dis, je peux pas donner des cours, j'ai pas encore le diplôme. Je dis quoi? Parce qu'il devait y avoir une équivalence entre mon M2 de neurosciences, mon M2 de psycho, et ce qui a pas marché. Parce qu'il y a eu un désaccord entre genre un truc administratif français classique. J'ai fini ma thèse, j'ai soutenu en genre 2010, peut-être août. Et en septembre, j'étais à nouveau à la fac en M2 de psycho, où j'ai fait un an. En gros, j'avais une thèse, mais je devais valider le titre pour avoir le droit de pratiquer dans mon cabinet et de pouvoir donner des cours. Et du coup, j'ai fini mon diplôme et j'ai fini avec un master de psychologie et une thèse de neurosciences par hasard.
Est-ce qu'on peut dire que tu es un génie de la psycho ?
Non. Non, non.
Parce que là, franchement, les descriptions que tu me donnes, c'est quand même...
Non.
C'est vraiment, pour moi, ça rentre dans les cases, quoi.
Non, parce que...
C'est même pas non
parce que je fais mon humble, c'est non, et limite je suis en colère parce que pour moi un génie c'est quelqu'un qui fait pas l'effort derrière. Ouais. Einstein, quand on lui disait qu'il est un génie, il s'énervait. Il disait Newton, quand on dit qu'il est un génie, il s'énervait parce que c'est beaucoup beaucoup de boulot derrière. Un génie c'est hyper rare. Même Mozart, genre à 3 ans il bossait son piano, hein. Quand tu dis que c'est un génie, ça implique une sorte de facilité, genre tu es né comme ça, et donc non, c'était absolument pas en moi d'étudier, de bosser, j'en ai bavé royalement, j'ai passé le bac à 10,08, 10,09, un truc comme ça, genre non, c'est juste si j'avais une opportunité et je mettais le travail derrière.
D'accord. Et c'était parce que c'était passionnant aussi.
Alors je suis quelqu'un, je sais pas si je suis intéressant, mais je suis intéressé.
Genre, ouais.
Là, je fais des cons, par exemple, dans l'entreprise, et à chaque fois que je vais chez un client, la première question que je lui dis, c'est est-ce que tu as une usine? Il me dit, genre, pourquoi? Je lui dis, s'il y a une usine, je vais la visiter. Je suis intéressé par comment les choses fonctionnent. Que ça soit le micro, la lampe, le cerveau, etc. Et donc, n'importe quel domaine qui explore comment les choses marchent, j'aurais pu me retrouver dedans et ça m'aurait intéressé. C'est juste que le cerveau m'intéresse aujourd'hui particulièrement parce que j'ai appris à le connaître. On ne sait pas beaucoup de choses, donc il y a encore pas mal de choses à découvrir. Ça touche tout le monde, alors que si je travaille sur comment fabriquer des micros, ça touche pas tout le monde. Et j'aime bien le contact humain. L'humain est un animal qui m'intéresse. Du coup, ça m'intéresse, mais pas génie et pas genre de... Quand j'étais petit, je voulais être coiffeur. Et puis, j'ai voulu être ébéniste. D'ailleurs, je prends encore des cours de menuiserie.
Ok. Ce que je voulais dire, c'est que il n'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir se lancer sur des sujets auxquels on n'est pas vraiment été préparé ou peut-être les conditions.
Oui, parce qu'il faut s'y préparer. Après, si je veux me faire m'auto-encenser un peu, le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'hyper anxieux. J'ai grandi en guerre civile, machin. Même ma mère est hyper anxieuse. J'avais peur de tout, etc. Ce que j'ai appris, ça va paraître un peu banal, mais de réduire à une échelle peut-être au-dessus de la moyenne les bâtons que je me mets dans mes propres roues. C'est-à-dire, je sais que ça paraît bizarre, mais je suis quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup sur ma carrière. Est-ce que je réussis? Est-ce que j'échoue? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Bon, je ne me sabote pas. Où je me sabote très peu. Je débat beaucoup avec moi-même, je change d'avis. Une de mes citations préférées, c'est « Voici mes convictions, si vous les aimez pas, j'en ai d'autres. » Là, il n'y a aucun souci, mais... En tout cas, j'ai appris, là aussi par le travail et l'effort, à ne pas ruminer, à ne pas refaire le film. Genre là, on finit l'interview, je rentre chez moi, je ne vais pas commencer à refaire toute l'interview, est-ce que j'ai été bon ou pas. Et ça
c'est un exercice que...
Ça, c'est un exercice que j'ai dû apprendre par la force des choses, parce que ma vie était devenue un enfer où je me souciais de tout. Et je suis très flemmard. Et la flemme a gagné. Il y a eu une guerre interne entre la flemme et l'anxiété.
Ouais.
Et la flemme a gagné. Et du coup, ça, c'est peut-être la seule chose que je considère je fais mieux que la moyenne, c'est que c'est très rare que je me mette à me saboter.
D'accord.
La vie me sabote assez. J'ai pas besoin de l'aider, quoi.
Mais alors, oui, alors en fait, c'est ça auquel je pense, c'est les autres, parce que les autres, le problème, c'est que les autres sont générateurs d'anxiété.
Oui, oui. Mais ça, franchement, mais comme, c'est limite le dernier de mes soucis. Et les autres peuvent m'angoisser et je peux m'inquiéter pour plein de choses. Il y a une sorte d'image métaphorique qui est pas vraie, mais que je trouve jolie. C'est les douleurs, genre le mal que les autres nous font. Se soigne, guérisse avec le temps, ça passe, on oublie. Les douleurs qu'on se fait à nous-mêmes ont beaucoup plus de mal parce qu'on les réactive quasiment tous les soirs. Les personnes qui ruminent, c'est souvent le soir, le matin, etc. C'est comme si on a une sorte de pensée obsédante. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles rentrent chez elles, elles disent « j'aurais dû dire ce mot ». Je le sais parce que je le faisais. C'est pas genre « je le sais parce que je l'ai étudié ». J'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû avoir une répartie différente. Lui, il m'a moqué, lui, il m'a regardé comme ça. J'ai vu dans son regard qu'il se disait que c'est bête. Mon sujet de thèse, c'est la phobie sociale. Donc c'est la capacité, je te regarde, tu me regardes et je me dis, je vois dans ses yeux qu'il se dit « pourquoi est-ce que je l'ai invité ?» Je commence à avoir une boule au ventre, je commence à perdre contrôle. Mon attention est divisée en deux. Je peux plus me concentrer. Je commence à perdre le fil de mes mots. Toi, tu commences à dire putain, il bug. Moi, je bug encore plus. Ça, j'ai plus.
Ouais,
et du coup, j'ai une idée. Je peux la sortir sans passer par toutes ces étapes de filtre. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que t'es intelligent? Que les autres me disent. Et s'ils me disent c'est pas intelligent, j'essaierai de devenir plus intelligent.
Est-ce que ça te rend plus libre?
Je sais pas ce que ça veut dire. Libre comment?
Est-ce que ça te rend plus en capacité de réaliser ou d'imaginer des choses que tu peux faire ou d'aller de faire des choses que tu as envie de faire, que tu rêves de faire, etc. Est-ce que tu as moins de barrières pour...
Pour certaines, pour pas mal de choses, j'ai moins de barrières. Par exemple, comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler en entreprise il y a 6-7 ans, complètement par hasard à nouveau. C'est encore une histoire plus dingue que comment j'ai fini avec une thèse. Mais c'est pas très intéressant. Enfin bref, je me suis retrouvé dans une boîte. Et moi, j'ai travaillé en entreprise ces 2 ans avec des potes, donc je savais pas c'est quoi. Et mon frère, qui a 8 ans plus que moi, il sait que je vais aller travailler, donc il part, il m'achète un costard. J'avais genre, je sais pas, 30 ans, jamais eu de chemise, jamais eu de costard. Pas parce que je suis anti-conformiste, parce que c'est pas confortable. J'ai essayé, c'était pas confortable. Je suis allé le premier jour à mon premier atelier avec mon costard, et j'ai senti que ma présentation était moins bonne que ce que je fais d'habitude. Et je me suis dit, c'est un coût que je veux pas accepter de payer. Donc j'ai décidé de ne plus le faire. Et la fois d'après, quand je suis allé chez un client, de ce qu'on me dit, quand on me regarde, on ne dit pas que j'ai l'âge que j'ai, on pense que je suis beaucoup plus jeune. Et surtout si je suis en t-shirt avec un sac à dos, on se dit que c'est un étudiant. Et j'ai vu dans les yeux des gens, et peut-être que je projette, c'est qui cet ado qui vient nous faire la formation. Mais après, quand j'ai commencé à parler, et je parlais normalement, et j'essaye de parler avec un langage courant, surtout pour les sujets techniques, que les gens étaient vraiment contents de ce que j'ai fait. C'est comme si leurs attentes ont chuté, et puis bim, je les ai dépassés. Et donc je me suis permis à partir de là de par exemple faire des choses que quelqu'un d'autre peut-être ne se permettrait pas sur un plan professionnel. Par exemple, je réponds à mes mails juste le dimanche. Je perds du boulot, mais j'ai pas envie de répondre à mes mails tous les jours. Je tutoie la majorité des gens. J'ai pas de tarif.
D'accord.
Les gens payent ce qu'ils veulent.
Ok.
Et ça, c'est des choses que, oui, beaucoup de gens me disaient. Par exemple, je parle de choses complexes sans compromettre la complexité. Donc, je vais chez des ouvriers dans une usine et je vais leur parler de métacognition, de biais cognitifs, etc. Et la première fois que j'ai fait ça, les gens me disaient « Ouais, mais tu sais, Albert, ça, c'est pas des cadres, ils vont avoir du mal à comprendre, etc. » Et je leur ai dit « S'ils comprennent pas, c'est ma faute.
Ouais.
C'est ma responsabilité qu'ils me comprennent. C'est pas la leur, c'est pas eux qui ont fait une thèse.
Ouais, c'est ça.
C'est moi. Et c'est complètement dingue de dire « C'est à eux » de faire l'effort de me comprendre. C'est à moi de faire l'effort d'être clair dans mon expression.
Ouais.
Et ça, c'est des choses que je pense que j'aurais pas osé faire parce que j'aurais eu trop peur de pas avoir le contrat, de pas avoir la démarche, etc. Et maintenant, genre, j'ai la chance, parce que je suis vraiment quelqu'un qui croit à la chance, et au hasard, genre, la chance donne, de pas avoir besoin de vendre, de pas avoir besoin de faire des démarches commerciales, de pouvoir dire, vous payez ce que vous voulez, de pouvoir imposer un peu mes conditions. Mais au début, c'était pas aussi facile. Mais c'est cool.
C'est pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est quand même du travail tout ça.
Ah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour être en conférence avec des PDG, des plus grosses boîtes, et qui te disent bah, comment est-ce que vous passez votre temps libre, et de leur dire je suis classé mondial à Mario Kart. Il faut que tu puisses ne pas te mettre des bâtons dans tes roues.
Ouais.
Pas t'en foutre de ce que les gens pensent. Je suis très attaché à ce que les gens pensent, parce que le moment où tu commences à t'en foutre de ce que les gens pensent, tu commences à être arrogant. Ouais. Si tu me dis après l'interview c'était mauvais, je vais faire tout le travail nécessaire pour essayer de me demander comment est-ce que je peux m'améliorer.
Ouais.
Mais je tente, parce que je dis que toi tu me dises c'est pas bien, pas que moi je me dise c'est pas bien. C'est à toi de me juger. Moi j'ai plus envie de me juger. Tu me juges et j'écoute et je prends en compte le jugement de tout le monde. Bien sûr il y a des personnes que je prends en compte plus que d'autres, mais moi je me juge plus. Genre...
Bah... C'est un des aspects que je trouvais qui faisait un peu écho dans ton travail, c'est au travail de Marshall Rosenberg, peut-être que tu connais, et tout ce travail d'auto-empathie. C'est comme si ce travail-là, tu l'avais tellement digéré que c'est devenu presque automatique et que tout de suite tu ressentes. Et même c'est ce que tu décris un peu quand tu parles de métacognition, c'est-à-dire tout de suite tu analyses tes émotions, d'où ça vient, et tu déconstruis, et tu... c'est ça, est-ce que c'est un rapport à ça, avec ça ou peut-être
C'est pas possible de faire ça, je vais pas prétendre, je m'énerve encore, mais je me prends pas au sérieux. C'est-à-dire, quand je suis en colère, il y a une partie de moi qui le prend pas au sérieux. En gros, je me fais pas vraiment confiance. Je fais confiance aux autres. C'est plus simple. Parce que je suis pas digne de ma propre confiance. Mais les autres le sont, et j'espère être digne de la confiance des autres. On est des animaux sociaux.
C'est ce que tu disais à Kiasma, c'est... il faut faire confiance aux autres pour aller vers la justesse, mais...
Aller vers un socle commun de réalité qui nous permet de fonctionner, quoi. Mais si, en permanence, je pense que mon intuition est bonne et la tienne est pas bonne, bah... Ça marche pas très bien.
Alors du coup, tout ça, c'est toute une série d'outils pratiques, de petits conseils que tu pourrais te donner. Non, en fait, je veux pas spoiler le bouquin quand même, il y en a quelques-uns à la fin.
Il y a le dernier chapitre seulement, parce que je voulais pas faire un livre de conseils, je voulais faire un livre qui explique pourquoi c'est comme ça.
Oui.
Mon éditeur était en mode, ouais, mais il faut quand même donner des conseils, parce que sinon les gens vont avoir des angoisses. Et j'ai fait le dernier chapitre, peut-être dans le futur. C'est juste que je ne veux pas donner l'illusion qu'on peut s'en sortir avec des petites astuces. C'est insultant pour notre complexité.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Donne des pistes, on va dire. Ou en tout cas, ce qui semble, parce qu'on ne sait pas encore, ce qui semble avoir les meilleures promesses de fonctionner.
D'accord.
C'est un peu ça.
Et que tu as presque, d'une certaine manière, testé sur toi.
Non, c'est issu de la recherche. Mon expérience personnelle, on en parlait tout à l'heure, pour moi n'a pas de valeur. Quelque chose qui a marché pour moi, c'est hyper dangereux de croire que ça va marcher pour les autres.
Okay.
Ça a marché pour moi, j'ai eu de la chance, tant mieux. C'est un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui me dit j'ai eu le cancer, j'ai bu de l'arnica et j'ai plus le cancer. Très bien, mais on peut pas en faire une recommandation médicale.
C'est quand même c'est quand même construit sur la base de connaissances scientifiques que tu as acquises et qui sont issues de la recherche, etc.
Donc d'un échantillon, pas d'une personne.
Oui, voilà. Mais alors, ça, c'est un sujet un peu intéressant sur justement tout l'aspect des sciences cognitives. C'est une grosse critique qui est apparue il y a 2-3 ans sur les sciences cognitives en disant mais tout ça, c'est basé sur des échantillons qui dépassent très très rarement les 100 personnes. Et on parle plutôt d'une moyenne autour de 20 à 40 personnes à qui on fait faire des tests.
Ça dépend des études. Il y a des études qui sont, par exemple, les études de validation des questionnaires dont on parlait. Mm-hmm. C'est au minimum 5000 personnes, 10000 personnes. Ça dépend des tests. Et surtout, un article de recherche, ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme une expérience personnelle. C'est est-ce qu'il y a eu réplication? Combien? Et c'est des faisceaux de preuves. Encore une fois, la science ne prouve pas. La science montre ce qui n'est pas vrai. Et du coup, combien de personnes ont montré que ce truc n'est pas vrai? Avec quoi est-ce qu'on est resté? Et vers quoi? On appelle ça des faisceaux de preuves. Le faisceau se dirige vers où? Mais il faut comprendre le concept d'échantillonnage. Parce que des fois, un échantillon de 100 personnes est largement suffisant. Ça dépend ce que tu étudies. L'exemple que je veux te donner, imagine qu'on a ici une boîte avec des boules. Tu connais Motus?
Oui.
Comme le boule de Motus, on ne peut pas voir ce qu'on tire. On veut savoir combien de couleurs il y a dans cette boîte. Si je tire la première boîte, elle est noire. La deuxième est noire. La troisième est noire. La dixième est noire encore. À partir de 10 boules, on peut se dire, a priori, il n'y a que des boules noires. 10, ça semble être suffisant, parce que la boîte, elle fait ça, et peut-être qu'on a enlevé, je sais pas, un dixième, il y a 100 boules dedans. Et les chances sont assez basses pour qu'on ait tiré 10 de suite noires. Par contre, imagine qu'on tire la première balle, elle est noire, la deuxième est rouge, la troisième est verte, la quatrième est bleue, puis une noire, puis une jaune, puis une rouge, puis une noire, puis une verte. L'échantillon de 10 n'est absolument pas représentatif, parce que le nombre de critères, la variabilité, est très élevée. Vu que la variabilité est élevée, j'ai besoin peut-être de piocher un tiers des boules pour avoir une bonne, un bon échantillonnage. Donc un échantillonnage dépend aussi du nombre de variables. Si on tire 10 boules et il y a juste des noires et des rouges, ben c'est assez. On peut savoir que, je sais pas, il y a 7 noires et 3 rouges, on va se dire il y a 70% de noires. Ah, peut-être on va tirer 15.
D'accord.
Et après, c'est assez. Mais s'il y a 10 couleurs, ben je vais peut-être devoir tirer toutes les boules. Mais on ne peut pas penser à un échantillon, ah 100 c'est trop peu. Si je suis en train de travailler sur une maladie rare qui touche 50% sur la planète, et j'ai un échantillon de 10, c'est extraordinaire. Si je suis en train d'essayer de comprendre la variabilité des couleurs de peau sur l'espèce humaine, 10 c'est rien.
Mais c'est toi, à l'instant, tu disais que le cerveau humain, l'espèce humaine, l'être humain est extrêmement compliqué.
Ouais.
Pourquoi il n'y aurait pas des résultats qui sortent de... qui serait de l'ordre de 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, etc. Et qui, ne serait-ce que par leur exception, tendrait à démontrer que c'est plutôt tel truc ou c'est plutôt tel contexte qui a une influence sur certaines interprétations, etc.
Le mot magique que tu utilises, c'est exception. Quand on fait de la recherche, on essaye de voir une tendance, pas une preuve. Donc je vais dire 80% des personnes qui ont un projet, une date et un moyen de se suicider, risquent de passer à l'action. Il y a les 20% qui risquent de ne pas passer à l'action. Mais on travaille avec des probabilités. La science n'est pas quelque chose de déterministe. Contrairement, quand tu entends dans les nouvelles quelqu'un qui dit « des recherches ont montré que », ça veut rien dire. Ce qu'on devrait dire, mais c'est trop compliqué, tu es journaliste, probablement tu vas comprendre pourquoi. Ce qu'il faut dire, c'est que des chercheurs ont essayé de prouver que quelque chose est faux, n'ont pas réussi, et donc on accepte comme vrai, jusqu'à preuve du contraire, avec un facteur de confiance de 90% et une marge d'erreur de 20%.
Oui, ils sont tous partis.
Exactement. Mais c'est comme ça, pour un chercheur, moi quand on me dit une recherche a montré, la première chose c'est, est-ce que je peux voir la recherche? J'ouvre la recherche, c'est quoi la méthodologie? Deuxième question, est-ce que ça a été répliqué? Troisième question, quel est le corpus de la littérature scientifique? Est-ce que c'est la deuxième étude? Est-ce que c'est la centième étude? Le réchauffement climatique, c'est pour ça que maintenant on l'accepte comme vrai, parce que le corps de preuve est écrasant. Et il y a des études qui montrent que le réchauffement climatique n'existe pas. C'est juste que si tu prends 1000 articles, il y en a 10 versus 990. Et ça, c'est un problème même pour le système judiciaire. On peut en parler pendant des heures. Un témoin oculaire, il n'est pas à 100% fiable, mais on le croit. Alors que si on fait une analyse statistique et on a 92% de chances que la personne soit coupable, on ne la condamne pas. Parce qu'on a du mal avec les probabilités, parce que notre société est structurée autour de ce qui est vrai et ce qui est faux, alors que ça n'existe pas.
Alors,
c'est vrai combien, faux combien.
C'est intéressant parce que ça fait aller vers un des exemples que tu donnes très régulièrement. Je crois que tu le donnes aussi au début de ton livre. Aux États-Unis... pendant de nombreuses années, quand on accusait, on faisait des line-up, et donc l'habitude des gens, c'était de considérer que les noirs étaient des coupables et que c'est eux qui étaient forcément les
meurtriers. Pas seulement ça. Si la police n'achoppe pas le coupable, la victime souvent, et elle est de bonne foi, personne n'est en train de mentir dans cette histoire. Désigne la personne la plus probable. Et du coup, la chercheuse qui a travaillé sur ça s'appelle Elisabeth Loftus. Elle a après contribué à changer les lois aux États-Unis où on peut plus mettre quelqu'un en tôle juste basé sur un témoin oculaire unique. Mais surtout, après, des juristes ont ouvert un projet dans les années 90 ou 2000 qui s'appelle le projet Innocence, qui sont allés réétudier tous les dossiers de personnes incarcérées basées sur un témoignage oculaire unique. Leur taux de fausse accusation est de 74%. 74% des dossiers qu'ils ont étudiés, c'était des fausses condamnations basées sur des faux souvenirs reconstruite par des personnes de bonne foi. Et c'est très important de comprendre qu'ils sont de bonne foi. Et du coup, oui. On travaille en science, oui, il y a des exceptions, mais on travaille souvent sur des faisceaux de preuves et pas des absolus. La science n'est pas un chemin vers la vérité. La science est un chemin vers qu'est-ce qui est faux.
Très bien. Merci Albert.
De rien.
Pourquoi? Bah, merci parce que tu t'apportes plein d'éclairages sur plein de choses. Je sais pas trop comment ça se fonctionne, ça. Peut-être que tu peux m'expliquer, mais j'avais l'intuition en te rencontrant que tu t'allais m'apporter des choses, les choses que j'attendais d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'avais anticipé que les choses que tu allais m'apprendre étaient des choses qui allaient intéresser beaucoup de personnes et allaient nous éclairer et nous faire avancer sur notre conception de la vie. Et peut-être, en ce qui me concerne personnellement, sur ma vision que j'ai de l'émancipation de l'individu, quoi.
Merci. Genre, j'espère que ça...
Non,
comment est-ce que tu as senti ça? C'est parce que tu es venu à Kiasma et... Tu as vu Camille qui fait sa conférence et tout, et c'est des gens brillants, et donc tu t'es dit peut-être que lui il est brillant comme eux. Ça c'est un petit clin d'œil pour les camarades de Kiasma qui sont géniaux.
Je crois que ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'était le dispositif assez libre dans lequel tu nous as mis.
Ah oui, moi j'aime bien que chacun. J'aime pas les. J'essaye de faire une phrase qui paraît pas anticonformiste, parce que moi j'essaye d'être conformiste, j'adore être dans la moyenne, je comprends pas pourquoi tout le monde va être spécial, genre ce serait super d'être dans la moyenne comme tout le monde.
Dit-il après avoir dit que il supportait pas de porter un costume.
Non mais c'est pas parce que je veux être, et je l'ai précisé, parce que c'est pas confortable. Si les costumes étaient confortables, je serais le premier à les porter. J'aime bien mon confort, genre j'ai des par exemple des jeans qui sont pas des vrais jeans, qui sont des jogging.
D'accord.
Camouflé en tant que jean. C'est bête, mais moi je suis quelqu'un de très facile à satisfaire. Okay. Genre j'aime les petits trucs dans la vie. Genre j'aime jouer avec un Rubik's Cube ou un casse-tête. J'aime pas aller dans des restos manger des trucs bons. J'aime pas voyager, voir des endroits exotiques. Genre j'aime bien les petits plaisirs. Du coup, pour moi, porter un jogging qui ressemble à un jean, c'est le highlight de ma journée. Et du coup, ne pas porter un costume, c'est pas du tout genre ouais, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le moule, etc. Je l'ai mis, c'était pas confortable, ça fait mal. Je comprends pas comment des gens portent ces chaussures, ça fait mal. Ça me faisait mal. Et on me disait, ça passe. Mais ça passait pas. Ça passait pas. J'ai vraiment essayé. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'était sur.
Là. Sur Kiasma et sur
la liberté, ouais. C'est j'essaye de quand on Kiasma, donc pour ceux qui savent pas, c'est un collectif que j'ai créé avec des potes chercheurs où on fait des débats et le but du débat c'est de comprendre pourquoi on a une opinion, pas pour avoir raison. Et donc tu avais eu la l'amabilité et le courage de te porter, parce que les personnes qui débattent c'est des personnes du public, et donc tu avais eu le courage de participer à notre débat.
J'adore ça. Donc
le but c'est que les personnes. Donc on fait exprès des débats où c'est des personnes du public, donc c'est des non-experts ou des experts mais qui sont dans le public, qu'on n'a pas nous recrutés, pour que les gens ressentent ce qu'ils ressentent. Et donc moi je suis souvent le modérateur, mais comme tu as pu le remarquer, je ne modère rien. Je tiens juste la montre, donc je dis c'est fini, maintenant c'est à vous, c'est fini, maintenant c'est à vous, c'est fini, maintenant c'est à vous. Parce que quand on a créé Kiasma, donc on était quatre, on était dans une autolib, et on débattait tout le temps, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'invite pas les autres à débattre? Pas pour qu'ils nous entendent débattre, mais moi quand j'organise des événements Kiasma, quand on organise des événements Kiasma, je veux moi aussi apprendre des gens qui viennent. Parce qu'encore une fois, je suis intéressé par la diversité de l'espèce humaine. Et donc si j'interviens, c'est moins intéressant pour moi. Et donc c'est comme une sorte de cheval de Troie. J'organise des choses et j'utilise le fait que j'écris un livre, que je fais pas mal de vidéos, qu'en ce moment j'ai une pseudo-visibilité. C'est comme le mec qui joue de la flûte pour attirer les souris dans la ville. C'est un peu la même chose pour attirer les gens parce qu'ils m'intéressent. Donc j'essaye de leur donner quelque chose d'intéressant et après j'essaye de faire en sorte de les mettre dans un cadre où eux, ils me donnent un truc d'intéressant aussi. Et le débrief du débat auquel tu as assisté, c'est un des trucs les plus intéressants auxquels j'ai assisté sur la dernière année. Et moi, dans le débrief, je disais quasiment que dalle. Il y avait Thibaut, il y avait toi, il y avait Emmanuel, il y avait des personnes du public, et ça a énormément nourri ma réflexion. Énormément. Donc merci pour toi d'avoir participé.
Alors, Merci. Du coup, j'ai perdu ma question. J'allais noter.
C'est
les
le compliment,
trucs.
Peut-être.
C'est voilà, c'est exactement ça. c'est effectivement comme ça que ça fonctionne.
Ouais,
ça déclenche une certaine dopamine et c'est ça, non?
Non,
c'est autre chose.
C'est j'ai un point d'honneur où j'utilise pas les mots dopamine, sérotonine, adrénaline, etc. Parce que ça, c'est réducteur. De
d'accord.
Dire, genre, tu es content, bim, tu as de la dopamine. J'ai même des patients, des fois, là, qui viennent me voir, qui me disent, on a un manque de sérotonine. On sait pas mesurer la dopamine, la sérotonine dans le cerveau.
D'accord.
On sait pas la mesurer.
Même pas la cytocine, c'est ça?
L'ocytocine non plus. C'est des réductions.
D'accord. Bon,
c'est des neurotransmetteurs qui activent certaines synapses. On sait qu'ils sont potentiellement impliqués et on n'est pas vraiment sûr. Et du coup, j'essaye de les éviter. Mais comment ça marche, dont on est un peu plus sûr, c'est que quand je t'ai fait un compliment, ton attention a été splittée. Et du coup, tu ne pouvais plus te concentrer sur l'extérieur. Ça t'a ramené à une sorte de truc intérieur. Qu'est-ce que je vais dire? Tu commençais à dire, est-ce que je ne me souviens plus? Probablement.
Ouais.
Du coup, tu cherchais. Donc, tu n'étais plus vraiment dans le moment. Et ça crée ce... On est très sensible à la cognition sociale. Le labo où j'ai fait ma thèse, il y a une chercheuse qui s'appelle Jacqueline Nadel qui a fait une expérience que j'adore. Des bébés qui ont 4 heures.
Ouais.
4 heures d'âge.
Wow.
On les mettait dans une salle. On mettait leur mère dans une autre salle en vidéoconférence. Donc la mère fait ra-ra, bi-bi-bi, bou-bou-bou. Et le bébé, il rigole parce qu'il aime bien le son de sa mère. Et après, on introduit un décalage, un délai dans la vidéo.
Ouais.
Je pense que c'était 400 millisecondes.
D'accord.
Le bébé le ressent et commence à péter des câbles.
Ah
on
ouais.
Est hyper sensible à des chances sociales. C'est pour ça, si, je sais pas, vous regardez la télé, il y a un léger décalage entre, par exemple, le son et le mouvement des lèvres. On est hyper fin dans ses perceptions.
D'accord.
Et donc quand tu étais sorti du truc, déjà nous on le ressent, toi tu ressens que nous on l'a ressenti, tu dis merde.
Ouais.
J'espère que là tu as utilisé le temps pour te rappeler.
Absolument pas, c'est de toute...
J'ai essayé.
Merci, mais c'est pas grave. Écoute,
il y a d'autres choses.
Il y a d'autres choses. Il y avait aussi... En fait, c'est le sujet, un des premiers sujets que je voulais aborder avec toi, c'est l'émotion.
Ouais.
Et c'est là tu viens de décrire un peu son fonctionnement en fait. C'est un de mes soucis. Alors on va pas faire une séance de psy, mais il y a dans le moment où d'échange avec des gens ou dans les moments de tension, on perd un peu ses compétences. On perd un peu. C'est ce que tu viens de décrire.
Si on n'est pas entraîné, oui.
Si on n'est pas entraîné. Et donc, dans tout ce que tu nous as décrit tout à l'heure, c'est pour ça que je parle un peu de liberté, d'émancipation, c'est parce que j'ai la sensation que dès lors qu'on comprend comment on fonctionne, dès lors qu'on connaît tous ces petits process, on arrive à mieux se protéger, peut-être des agressions ou de ses propres angoisses. Et du coup, à rester focus peut-être sur... alors peut-être que le mot focus est mal choisi.
Non.
À rester focus sur l'objectif ou sur la mission qu'on s'est donnée.
C'est l'idée générale,
mm-hmm.
Mais ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on espère. Et on essaye de comprendre pourquoi. En gros, si je t'apprends tous les biais cognitifs, ça ne veut pas dire que tu vas en faire moins. Mm. Parce qu'il y a plusieurs autres effets. On pense que c'est nécessaire, mais on est quasiment sûr que c'est pas suffisant. Genre, moi, j'ai autant de biais que les personnes qui nous écoutent ou que toi. C'est juste que peut-être, et j'en suis pas vraiment sûr, j'ai plus de chance pour certains sujets. En tout cas, je suis sûr pour certains sujets parce que je les ai travaillés explicitement.
Mmh.
Mais en général, si on fait la moyenne, j'ai probablement autant de biais que les autres. Mais peut-être, et on n'est pas sûr, j'ai plus de chances de corriger. Mais j'ai autant de chances de tomber dedans. J'ai peut-être plus de chances de corriger. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que l'entraînement... raisonnement critique, améliore vraiment ces choses. Pour les malades, pour les patients, donc pour la maladie, pour la pathologie, un trouble anxieux, etc., on est quasiment sûr. Pour la population générale, pas encore. Pire, il y a certaines pistes qui semblent indiquer que je t'apprends le raisonnement critique, la rhétorique, les biais, etc., etc., et après tu les utilises pour te donner encore plus raison.
Ouais.
Donc là, je vois, par exemple, il y a des communautés de zététiques, des communautés de... Donc, ce travail de faire ce raisonnement critique,
mm-hmm.
où ça devient une sorte de surenchère de détection au biais. On appelle ça le fallacy, l'erreur de logique de l'erreur de logique. C'est-à-dire, je trouve une erreur de logique dans ton raisonnement et j'utilise ça pour me réconforter dans mon opinion. Et c'est pour ça que dans la conclusion du livre, je m'en fous de le spoiler, c'est pas grave, j'appelle à, et on en a parlé un peu, à ce doute de soi. Utiliser les biais, utiliser les erreurs de logique pour étudier son propre raisonnement, mmh. au lieu de l'autre. C'est assez facile. Moi, tu me mets là une vidéo d'un débat, et je l'ai fait à Kiasma. En live, je peux trouver les erreurs de logique. C'est assez facile de le trouver chez l'autre, et on peut l'apprendre assez vite. Mais le vrai challenge, c'est de le faire sur soi-même.
Et là, on est encore un peu à poil.
Ouais,
on y travaille.
Moi, j'aurais dit plutôt limité, parce que avoir, parce que moi, quand je développe un argument, je suis concentré sur la bonne formulation de mon argument, la compréhension de mon argument, éventuellement sur l'attitude et l'écoute de la personne qui est en face. Il y a tout un ensemble de choses que je mets en route, qui fait que je vais assez peu être méta par rapport à ce que je vais dire, quoi. Enfin, je sais ce que je vais dire, mais je vais pas me dire attention. Si je me l'appliquais à moi-même, comment je réagirais? Enfin, c'est un truc de schizophrène, sans vouloir trop utiliser.
Parce qu'il faut pas le faire en temps réel, mais après coup tu peux le faire. Mais après, tu peux peut-être faire cet exercice pour certains sujets et pour d'autres, si tu es très attaché, si tu as un investissement financier ou intellectuel ou etc. Ça devient plus compliqué. Souvent, quand je vois les gens discuter entre eux sur des sujets assez émotionnels, je sais pas, l'homophobie, si toi tu es homophobe et moi pas, et on discute, c'est très rare que moi j'ai une posture où j'essaye de te donner une chance de me convaincre. Et toi non plus. Et du coup, c'est la différence entre des débats d'opinion et des débats de valeur. Et souvent, ce qui coince dans la société, c'est des sujets de valeur. Si l'euthanasie, il n'y a pas des arguments rationnels. Ni pour, ni contre. C'est des valeurs qu'on doit décider en tant que société. L'âge de vote, il n'y a pas des valeurs rationnelles pour ou contre. Le développement du cerveau, machin, tout ça, ce n'est pas des arguments. C'est des appels à l'autorité qui sont basés sur rien du tout. Et il faut séparer les débats de valeurs.
Oui, enfin, là tu fais, et du coup je vais utiliser un des termes que tu utilises de temps en temps, tu fais des prémices. C'est-à-dire, tu dis, ce sont des trucs de valeurs, mais peut-être pas, peut-être que ce sont des...
Je vais te donner un exemple, il y a un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, qui travaille sur la morale et sur les valeurs, qui crée des scénarios, et je vais t'en donner deux, et après on en discute. Le premier, c'est, je sais plus comment il s'appelle, disons John et Marie, son frère et sœur. Et un jour, ils sont en train de faire un camping dans une forêt, dans une cabane, et ils décident que ce serait drôle qu'ils couchent ensemble, alors qu'ils sont frères et sœurs. Du coup, ils décident qu'ils vont raconter à personne. Marie prend la pilule, et John, dans le doute, utilise deux capotes, ou une capote, parce que deux capotes, c'est pas sécurisé, donc une capote. Ils couchent ensemble, ils trouvent ça bien, elle a aucune chance de tomber enceinte, mais ils disent qu'ils vont pas le refaire, et ils prennent plaisir. Et donc, Jonathan Haidt explique ce scénario et demande aux gens, est-ce que vous considérez que ça c'est quelque chose d'acceptable? Et les gens disent non. Il leur dit pourquoi? Ils disent parce que c'est de l'inceste. Il leur dit pourquoi est-ce que c'est problématique l'inceste? Et ce qu'il remarque, ce qu'il appelle lui, c'est un état de stupéfaction morale. Les personnes refusent le scénario, mais sont incapables de donner des arguments rationnels sur le sujet, parce que c'est un sujet de valeur. Un autre exemple qu'il donne, pour pas juste être dans l'inceste, c'est tu as un chien que tu aimes beaucoup, ça fait 10 ans que tu l'as, tu es en train de te promener dans la rue, et en traversant la rue, une voiture, pas toi, Jacques a un chien qu'il a depuis 10 ans, il est en train de le promener dans la rue. Alors, en traversant un passage piéton, une voiture l'écrase. Donc Jacques prend le corps du chien, l'emmène chez lui et le cuisine et le mange à dîner. Est-ce que c'est problématique? Et les gens disent, putain, c'est un...
Je te remercie de m'avoir ôté de cette histoire.
Voilà. Et donc,
il extrémise.
Et du coup, il le bouffe. Et Haidt demande aux gens, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'acceptable? Et alors qu'ils lisent le scénario, ils font, c'est dégueulasse, machin. Ils leur demandent, pourquoi? Et là, bim, stupéfaction morale. Parce qu'il y a certains sujets, c'est des valeurs qui sont inculquées, et on ne sait pas vraiment, peut-être qu'ils sont légitimes, hein, mais on ne sait pas vraiment leur motivation, et on les accepte parce qu'on part tout le temps de prémices. On ne peut pas faire...
Oui, mais c'est toi-même, tout à l'heure, tu disais que quand on est convaincu de quelque chose, on arrivera toujours à trouver les arguments, même s'ils ne sont pas justes. Donc, pareil, moi, je ne suis pas sur l'euthanasie, je veux dire, de toute manière, la science est capable de trouver une solution à tout moment, et peut-être qu'il va y avoir des nanorobots pour sauver la personne, et pour sauver Vincent Lambert, et etc.
Oui, mais l'euthanasie, les gens qui sont pour l'euthanasie sont pour qu'on puisse tuer Lambert. Pas le sauver. Mais après, ce que je dis, parce que pour revenir à la question initiale, c'est bien sûr que je peux faire le travail pour me convaincre de tout et n'importe quoi. Mais là, on parlait de, moi, mon cerveau fait le travail pour me convaincre de tout et n'importe quoi, et je discute avec quelqu'un qui a un cerveau qui le convainc de tout et n'importe quoi. Encore une fois, ce que j'ai dit au début, si je suis seul, je peux croire que l'inceste, c'est génial, je peux croire que la pédophilie, c'est le super pied. C'est pas grave s'il n'y a pas d'enfant autour de moi, il n'y a pas d'autre humain. Ouais. Mais c'est quand mon cerveau, qui peut me convaincre de tout n'importe quoi, est confronté au tien, et si ça ne matche pas, comment est-ce qu'on en discute? En sachant qu'on vit dans un système démocratique, une démocratie est aussi forte que le niveau de la qualité de l'information qu'utilisent les, ses constituants pour voter,
ouais.
ça devient un gros problème.
Ah, parce que le théorème que tu viens de citer, ouais. Ça vient d'où ?
C'est le principe de la démocratie. Le principe de la démocratie, c'est que si on informe les citoyens, la majorité des gens prendraient une décision meilleure qu'une minorité, qui est une élite, ou le roi, ou l'église, ou etc. On va se baser sur ce qu'on appelle la sagesse des foules. Ouais. Parce que la sagesse des foules a besoin d'être basée sur un bon signal, sur une bonne information. Donc quand chacun de nous invente l'information qu'il veut, le consensus de la sagesse de la foule est en danger, et on retrouve ce qu'on voit maintenant, une recrudescence des extrêmes, parce que les extrêmes sont les personnes les plus motivées, le moins, qui doutent le moins, qui sont le plus certaines de leurs opinions, et du coup, au lieu qu'elles soient minoritaires dans une sorte de distribution normale statistique, on n'est plus d'accord sur les faits, et au lieu que la distribution normale soit comme ça, elle devient comme ça, et tu peux avoir des pics aux extrêmes, et dont les extrêmes montent dans les élections, et c'est un peu le talon d'Achille d'un système démocratique.
Mais alors qu'est-ce qui explique du coup la moindre participation des non-extrêmes alors ?
La moindre participation ?
Des personnes qui ne sont pas aux extrémités.
Ils sont moins motivés. Quand tu es extrême, si moi je suis hyper extrémiste, fondamentaliste, chrétien, et je vois des personnes homosexuelles qui se marient, c'est presque un danger existentiel pour moi. C'est la morale qui fout le camp, etc. Donc je suis hyper motivé, le dimanche, je descends manifester. Si moi je suis chrétien, sans plus, et je trouve que les gays, il vaut mieux pas qu'ils se marient, je descends pas à la manif. Je suis en mode, bon, ils se marient, what, genre, je m'en fous. Plus tu es extrémiste, qu'est-ce que ça veut dire être extrémiste ? Ça veut dire que tu es hyper motivé.
Mais on peut se penser aussi à des extrémistes de la démocratie, de se dire on a besoin de défendre la démocratie face à des gens qui veulent interdire la liberté.
Bien sûr. Et c'est, par exemple, je sais pas, Malcolm X ou Martin Luther King, c'était des extrémistes pour l'égalité des races.
Ouais.
Dans ce cas-là, leurs valeurs, je suis d'accord avec elles, donc je trouve que c'est bien. Mais imagine que moi je suis un suprémaciste blanc.
Ouais, t'es encore.
Je le trouve extrémiste, point, comme moi je trouverais extrémiste un nazi.
Ouais.
C'est... Et il y a des personnes qui ont écrit des bouquins sur genre l'extrémisme indigène. Les Noirs sont extrémistes.
Tout ça flirte avec ce mot quelquefois un peu diabolisé, le relativisme. Quoi.
Oui, mais c'est très important de ne pas tomber dans la fausse équivalence. Tout ne se vaut pas. Mais il y a des sujets où on n'a pas d'argument rationnel pour défendre. Et dans ce cas-là, il faut qu'en tant que société, on décide quelle est la valeur. Mais d'accepter que c'est une valeur. Mais tout ne se vaut pas. Toutes les valeurs ne se valent pas. Mais c'est des valeurs. Il ne faut pas se donner une fausse supériorité en disant ma valeur est rationnelle et sa valeur ne l'est pas. Non, c'est ma valeur a un avantage sociétal. On peut mieux collaborer si on est tolérant les uns avec les autres. Et sa valeur est une valeur d'exclusion. Et du coup, elle a moins de chances d'utiliser le levier de toute l'espèce. Si moi je suis machiste, je suis en train de ne pas profiter de 50% de l'espèce.
Ouais.
Et donc les valeurs ne se valent pas. Mais je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de comprendre qu'une partie de mes opinions ne sont pas basées sur de la rationalité. Et ce n'est pas grave. Et je l'accepte et je l'assume. Et limite, j'emmerde des personnes qui ne sont pas d'accord, parce que c'est tout le principe d'une valeur. Mmh. On peut la débattre, mais on peut accepter que je n'ai pas à 100% raison. C'est différent l'euthanasie et l'obus à 100 degrés. Ce n'est pas la même chose.
C'est la fameuse... est-ce que c'est la fameuse expression américaine,
Let's agree to disagree.
Oui,
oui, sauf qu'il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour... Des fois, elle est utilisée pour dismiss des sujets, pour balayer des sujets qui ne sont pas basés sur des valeurs. Le réchauffement climatique, on ne peut pas agree to disagree.
Alors d'ailleurs, tu sais que... Enfin, je suis plutôt d'accord avec ce truc-là. J'ai vu fleurir sur les réseaux sociaux l'idée qu'il fallait arrêter d'appeler ça des réchauffements climatiques, parce que en fait, on réduit finalement le dérèglement climatique à un aspect des choses, et alors que en fait, c'est un problème d'équilibre de la nature qui est en train d'être faussé.
C'est les deux. Le mot réchauffement climatique, techniquement, il est vrai. On assiste à un réchauffement de la planète. Le problème, pourquoi on ne veut plus l'utiliser, c'est parce que les gens, comme Pascal Praud la dernière fois à la télé, ne savent pas. Je ne sais pas comment il invite quelqu'un expert en climat et il essaye de débattre avec elle alors qu'il ne sait pas la différence entre la météo et le climat. Et donc les gens disent « Ah, mais on est en août, il fait froid, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Le climat, ce n'est pas la météo.
Et là, c'est, elle la provoque. Là, il fait le fou. Il fait,
ah non,
il fait
je ne sais pas si tu n'as pas vu la
si,
séquence.
Si, j'ai vu la séquence. Mais...
Il fait la provoque, il traite la chercheuse d'hystérique. Elle lui dit, ça fait 30 ans que je bosse sur le sujet. Il lui dit, ça fait 30 ans que tu te trompes.
Oui,
mais... C'est juste un salaud. Il ne fait pas de la provoque. Lui et Elisabeth Lévy, c'était presque de l'abus.
Pour Elisabeth Lévy, je... Bon, bref.
Et le mec, à la base, il est journaliste de foot. Et il reçoit une chercheuse en climat, et il lui met un bandeau dans sa figure, refroidissement climatique, point d'interrogation. C'est comme si moi, je ne sais pas, pour utiliser, pour arriver à un point Godwin, vu qu'on n'a pas arrivé à un point Godwin, c'est comme si moi, je suis juif, tu m'invites à ton émission et tu me mets une banderole, Auschwitz, réalité ou fantasme.
Ouais.
C'est non. Tu ne peux pas inviter quelqu'un qui a dédié sa vie à essayer de sauver la biosphère, et quand il rentre sur ton plateau, tu lui titres réchauffement climatique et tu commences par « Mais tu sais, il fait froid dehors, alors qu'on est en mai, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Genre, non.
J'arrive pas très bien à comprendre comment ça peut exister, là, ce moment-là de télévision. Mais
moi non plus.
Je voudrais... Alors, dommage, il reste vraiment très peu de temps, mais... je voulais parler un peu de dynamique de groupe et d'intelligence collective. C'est des choses qui sont rarement mises en avant dans tous les textes autour du management, au cours du fonctionnement en équipe, etc. Dans tous les guides, tous les sites, on va trouver beaucoup plus facilement plein de choses sur comment gérer les conflits, comment c'est toujours du one-to-one, quoi, enfin du face-à-face, et rarement sur comment on fait pour créer le contexte d'une intelligence ou d'une émergence de l'abaissement de frein à la créativité, quoi. Et est-ce qu'il y a des outils comme ça, est-ce que en commun, qui peuvent aider, ou enfin,
il y a des chercheurs, il y a de plus en plus d'entreprises maintenant qui essayent d'utiliser ces leviers. Il y a des facteurs contextuels comme par exemple les nudges, manipuler l'environnement pour manipuler le comportement. Mais il y a aussi des techniques de décision de groupe qui fonctionnent. J'en parle dans le livre. Il y a un chercheur que je connais qui s'appelle Joachim Nafaras qui a fait une étude sur la prise de décision pour voir est-ce que c'est utile le brainstorming. Et en gros, ce qu'il a montré, c'est que si on est 20 personnes et on délibère ensemble, c'est 1000 fois pire que si on est 20 personnes, on se divise en groupes de 3-4, on va dans des salles séparées, chaque petit groupe délibère ensemble, et après on met en commun et on fait la moyenne des réponses. Parce que quand on est tous ensemble, donc comme du brainstorming, on se pollue les uns les autres. Et il a fait ça dans une conférence TED au Brésil avec genre 10 000 personnes, donc échantillon de 10 000 personnes. Il a redemandé des questions qui ont des réponses exactes, comme par exemple, quelle est la hauteur de la tour Eiffel, combien de buts ont été marqués dans la Coupe du Monde de 1994, machin, machin. Et il a vu la différence entre si tout le monde délibère ensemble, et il fait la moyenne de tout le monde, donc comme une séance de brainstorming, ou si les gens délibèrent en petits groupes, et après on fait la moyenne des petits groupes, et ça marche beaucoup mieux. Parce qu'il y a des risques de conformité sociale, genre si moi je ne connais pas du tout quelle est la population de l'Ouzbékistan, et on se met tous, la première personne dit 10 millions, ça influence tous les autres. Et alors que 10 millions, peut-être que je l'ai dit comme ça au hasard, ça s'appelle l'effet d'amorçage. Tu amorces tous les autres. Donc il y a des techniques de délibération de groupe et une certaine taille où le groupe est plus optimal. Et avoir plusieurs groupes, plusieurs petits groupes fonctionne mieux qu'un grand groupe. Des effets de conformité, des effets de désirabilité sociale, par exemple. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est la navette spatiale Challenger qui a explosé. Dans le conseil d'administration, quasiment tout le monde savait qu'il y avait un problème, mais il se disait, je ne veux pas être celui qui dit qu'il y a un problème, mais il se disait que celui d'à côté de moi, c'est lui qui va te dire. Donc au moment de demander est-ce que go ou no go, la personne dit go, et se dit, j'espère que le mec à côté de moi va dire no go. La personne d'à côté dit go, 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 go. Le truc a fait go et a fait exploser dans l'espace, alors que c'était des problèmes de tuiles qui étaient... identifié, personne n'a fait son no-go.
C'est effectivement. Alors c'est justement toutes ces dynamiques de groupe. Comment on fait pour s'en protéger ?
On veut pas s'en protéger.
On veut pas ?
Non, on veut utiliser le groupe pour nous protéger de ses effets. C'est le groupe qui doit nous protéger. Moi souvent j'entends dire ouais mais les gens c'est des moutons, et j'aime bien dire, et ça c'est de la provoque. Vous savez, les moutons dont vous parlez, c'est moi. Genre, moi je suis un mouton et je suis fier de l'être, parce que ça, encore une fois, on n'a pas le temps d'apprendre tous tout. On a besoin à un moment de se faire confiance et de me dire, si maintenant tous les deux vous levez et vous courez, moi je suis le premier qui court derrière vous sans comprendre pourquoi. Mais je m'en fous. Genre, je préfère courir
et que vous soyez en train de me faire une farce et après j'ai l'air ridicule, que ne pas courir alors que vous avez vu une sorte d'alarme d'incendie que moi je connais pas parce que c'est un environnement que je connais pas et je me dis non, je vais être un penseur indépendant, ne pas être un mouton et rester assis dans le studio. Ça a des avantages évolutionnistes. L'important c'est d'essayer de réaliser qu'on est aussi partie du groupe et donc qu'on contribue au moutonnage des autres, mais qu'on soit un bon troupeau, quoi.
Ouais, mais par exemple, toute cette législation qui est en train de se développer autour des lanceurs d'alerte, hein, y a une ouais. forme de culture aussi. Enfin, c'est extrêmement épuisant pour un individu d'aller contre le système dans lequel il travaille en disant mais attention, vous êtes en train de vous tromper.
C'est pour ça qu'on a besoin.
Et de changer tout le contexte, enfin en tout cas de blesser ou de mettre en danger tout le contexte extérieur en fait.
Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver un groupe. Pour les lanceurs d'alerte. On ne va pas les laisser seuls. Mmh. On va essayer de faire un autre groupe. Donc on ne va pas l'aider à combattre l'effet de groupe, on va l'aider à rentrer dans un groupe pour qu'on puisse ensemble combattre un autre groupe.
D'accord.
Et c'est ça qu'on voudrait faire.
Vous êtes en train de promouvoir les syndicats, c'est ça ?
Clairement, les syndicats, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée. Aujourd'hui, l'état des syndicats est catastrophique, mais... Bonne chance pour un employé de se mettre face à les syndicats des patrons. Ça existe depuis très longtemps.
Ouais.
C'est pas... Ça s'appelle le MEDEF.
T'es syndiqué, toi ?
Moi, je travaille pas dans une entreprise. Donc, je sais pas s'il y a un syndicat
Tu pourrais être syndiqué.
Le syndicat ça, ouais. des auto-entrepreneurs ? Je sais pas si ça existe.
L'auto-entrepreneuriat est quand même une grosse arnaque pour la protection sociale. Donc,
on n'a pas de protection sociale.
Oui, ben voilà.
On n'a rien.
On est d'accord.
On n'a rien, oui. Bah, peut-être qu'il faudrait. Oui, oui. Mais le problème. J'aime pas dire du mal des autres, mais la majorité des auto-entrepreneurs sont à fond sur la Startup Nation et tout ça. Et donc, je sais pas combien ils seraient sensibles à l'idée de syndicalisation. Mais moi, je suis à 100% pour les mouvements. Je crois uniquement qu'on peut s'en sortir ensemble. Mmh. Donc je ne veux pas me protéger du groupe, je veux me protéger peut-être de certains groupes, mais j'ai envie d'être dans un groupe, j'ai envie de faire partie d'un troupeau. J'ai envie d'être un mouton. Mais j'ai envie d'être un mouton qui ne va pas à l'abattoir.
On va finir sur
ça. On va
cette
finir
phrase.
Sur ça, c'est une chanson de Saez en plus qui s'appelle L'abattoir, qui est super cool.
Soit pour vivre.